Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à l'émission On en jase, ton émission d'actualité et d'analyse de tout ce qui se passe près de chez vous et dans le monde entier. C'est l'émission On en jase de midi à 14h. Évidemment, pour ceux qui sont là depuis le début de l'année, pour ceux qui arrivent, vous savez qu'on aura le caucus avec Antonine Iaccarini dans quelques minutes. On va entre autres revenir sur l'entrevue qu'on a fait avec Charles Milliard ce matin dans Marceau le matin. Et on va aussi parler de cette incohérence en gestion de l'immigration au niveau du gouvernement du Québec. Ah, Jean-François Roberge. Par texto 418-971-1021 pour nous joindre. BLVD.fm, c'est notre web radio. C'est les meilleurs moments de notre émission qui s'y retrouvent immédiatement après l'émission. BLVD 101, c'est notre application sur App Store, Google Play Store. Twitch.tv/BLVD/FM pour venir nous rejoindre. Et abonnez-vous à notre page YouTube, car à chaque jour, le caucus avec Antonine Iaccarini s'y retrouve. On va parler de très gros sujets aussi dans l'émission aujourd'hui. Stéphane Boyer, maire de Laval, vers 12h30, sera avec nous. Il annonce ça, il faut qu'il fasse un chèque $1 million au crosseur, au maire Gilles Vaillancourt, qui a volé la municipalité de 7 millions. Tout ça pour que le gouvernement canadien, qui en a pas assez dans ses poches, aille chercher de l'argent. On va parler de ça avec le maire. J'en crois pas mes yeux de voir cette situation-là. Roger Ferland, ex-enquêteur du SPVQ, va être avec nous. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais il y a plusieurs jeunes à Repentigny qui s'en sont pris à une personne aînée qui fait de la surveillance dans un dépanneur. Puis, hey, peut-être des fois, je vous parle en bien de la jeunesse comme je l'ai fait la semaine dernière avec ce qui nous est arrivé dans notre tournoi de hockey du samedi. Mais là, ça n'a pas de sens. Ils sont une centaine de jeunes autour. Ils laissent l'aîné se faire frapper puis ils filment ça, eux autres. Ah ouais, personne qui prend la défense. On va parler de ça avec Roger Ferland. Est-ce qu'on est assez dur envers nos jeunes pour qu'à un moment donné, il y en ait un qui allume quand un événement comme ça arrive? Et évidemment, avec Luc Laliberté, on va faire le tour du conflit en Iran. C'est ce qui vous attend pour l'émission. Avant toute chose, mesdames, je veux vous demander cette question-là. Est-ce que vous connaissez ceci?
Ben, c'est un appel d'urgence, là, c'est un appel à l'aide, là, ou Jean-Michel Anctil.
C'est moi quand je bois du Pepsi.
Combien de temps après?
Ben, c'est tout le long, tout le long. À chaque gorgée, c'est ça que ça fait.
On t'en donnera pas en nom.
C'est vrai, quand on boit du Pepsi, ça brasse dans le ventre.
Oui, oui.
J'y avais pas pensé. Pascal, Antonine, je vous salue. C'est angine de poitrine,
ben,
tout le monde
oui.
En parle. Ben oui, comment vous avez trouvé ça?
Créatif. Mais moi, tant que l'équipe était d'accord, parce que c'est sûr qu'ils étaient au courant que ça allait se passer de même, je peux
ben
pas
oui.
croire. Guy Lepage a pris part à tout ça. Il y avait des sous-titres, ça nous a aidé à avoir une entrevue quelque peu concluante. Ça avait été juste des bruits, puis là, on comprend pas trop ce qui se passe. L'équipe était pas au courant. Ça prend 2 minutes, j'aurais été plus dans le questionnement de la mise en marché de ce groupe-là. Mais parlez-en bien, parlez-en mal, parlez-en, eux, ils ont réussi.
Moi, je trouve ça créatif. Je trouve que c'est vraiment une forme d'art qu'on voit pas souvent, tu sais. Si vous allez dans des musées, là, puis que vous aimez les artistes performatifs, là, puis tout ça, vous êtes un amateur déjà de ça, vous voyez toutes sortes d'affaires comme ça, mais c'est une forme d'art qui se rend pas souvent au grand public.
J'ai la performance. Là.
Moi, là, leur musique puis leur apparence me donne un petit mélange de curiosité et d'anxiété.
Moi, il me stresse pour vrai. Moi, il me stresse.
Tu sais, quand tu fais dodo puis que t'as pris des mélatonines bon marché, là.
Là, c'était
moi, c'est des rêves de même, là.
C'est ça.
Ah, ouais. Prendre la mélatonine des ruelles de Québec.
Tu sais, là, la mélatonine cheap, là, puis là, tu rêves à des scorpions qui te demandent des formulaires
ouais.
De bureaucratie, des appels à main. Moi, je vois angine de poitrine.
Moi, je veux remercier, vous comprendrez le sarcasme, l'excellente Alexa Lavoie de Rebel News, un média hyper, hyper crédible, qui a critiqué la présence d'angine de poitrine à Tout le monde en parle. Et résultat, bien, on a eu le droit au meilleur de notre société, alors qu'un internaute a écrit, bien, ça serait bien qu'il se tire 2 balles dans la tête, ça serait fini. Il pourrait jouer à la roulette russe, ce serait plus intéressant. Ou à Joanne qui a dit que sur la page d'Alexa Lavoie, qui a dit « Ben non, moi je trouve ça intéressant. » On l'a traité de crise d'épaisse et de maudite attardée.
Vive le Québec libre!
C'est super. C'est vraiment constructif. Moi, c'est
oui.
ce que je retiens. Mettons, tu peux ne pas aimer ça, mais c'est important de d'inviter mm-hmm. les gens au suicide quand ils font une forme d'art que tu n'apprécies pas.
Exactement. Alors, Rebel News, c'est ce média qui essaye de dire qu'il est crédible. Et c'est tous les pollueurs de nos médias sociaux qui se retrouvent là. Là. Tu sais, quand vous avez leur une public, opinion contraire, là, qui vous écrivent, là, puis qui vous disent « T'es une crise de vache! Ou est-ce que tu vas te suicider, toi? » Bien, c'est tous les fans de Rebel News. Fait que je vous invite à ne jamais lire
il y a quelque
les
chose.
Textes et à ne jamais regarder les reportages de Rebel News.
Et moi, j'ai pas pensé avant de venir en onde à cette question-là que je vais vous poser, c'est ton commentaire en ce moment qui me fait poser la question. Je me questionne sur ceux qui font de la nouvelle-ish, là, du commentaire, quoi que ce soit, quand ils regardent ce qui est écrit en dessous, puis c'est majoritairement des commentaires haineux, des affaires comme une grosse connasse de ci, de ça. Est-ce que t'es fier du courant social que tu crées? Est-ce que des fois tu te questionnes sur si ça réagit comme ça, y a-tu quelque chose que je peux améliorer dans? Puis ça veut pas dire de te cacher ton opinion. En même temps, ça réagit de même, vous allez me dire, tout le temps,
c'est
réseaux.
C'est comme tout le temps. Fait que moi, je me dis, à un moment donné, moi, je me fie pas trop là-dessus. Par contre, c'est vrai que ce public-là est souvent très, très agressif. Moi, Rebel News, je les suis. Moi, j'aime ça tout voir et tout lire dans ma vie, puis faire ma propre opinion.
Ouais.
Puis Rebel News, il y a une affaire, je trouve, des fois, ils font du bon contenu. Et je dis contenu, pas nécessairement le traitement qu'ils en font, mais ils nous apportent des images, par exemple, de manifestations ou de choses qui se passent sur le terrain que des fois, les médias traditionnels plus classiques ne vont pas nous apporter. Après ça, le traitement qu'ils en font, c'est une autre histoire.
Ouais.
Et la manière dont c'est reçu est répercuté par leurs auditeurs, ça en est une autre.
Mais si t'es un média qui se respecte, va te tirer deux balles dans la tête, t'enlèves ça de ta page.
Ah oui, c'est clair.
Tu veux dire, tu fais un tri dans les commentaires.
Ben oui, c'est clair. Là, je veux dire, toutes les plateformes médiatiques le font faire un tri. Là.
Permets-moi de penser que ceux qui font angine de poitrine, en passant, c'est comme bien des groupes au Québec qui faisaient des tunes qui n'avaient pas de sens. Je pense à Black Tabou et tout ça, du monde intelligent qui sortait des tunes qui n'ont aucun... Ça a pris ce sens qu'on a tout chanté, qu'on a... Ils doivent savoir qu'ils vont aller générer une réaction comme ça. Ils doivent s'en foutre. T'sais, au vrai, ça doit être le genre de personne que pour eux, faire brosser un peu les choses,
ils aiment
ça.
Je pense que c'est un peu l'objectif. C'est une certaine absurdité, c'est de créer des réactions, qu'elles soient négatives ou positives.
Mais quand ça va aussi loin que dans la violence, à un moment donné, on fait ménage.
Attends une minute, as-tu dit absurdité?
Mais ils n'ont pas ri.
Non,
ils n'ont pas ri en faisant ça.
Mais tu sais, là, c'est sûr que si t'aimes pas Radio-Canada, déjà à base, le monde qui écoute Rebel News, là, tu vas dire, hey, regardez ce qu'ils font avec nos temps.
Ouais.
C'est facile. J'aimerais... Ben oui, ben
Anto,
oui.
Pascal, OK, dites aux auditeurs ce que je dis.
Good, good vibes only. Même,
non,
je me suis planté.
Non, c'était pas ça du tout.
Ah.
Pascal, c'est l'heure des manchettes.
Je te les aurais jamais commencé, Jeff, là, pour vrai. oui, il y a de la nouvelle aujourd'hui. Mais dans ce qui est sorti, mettons, dans les dernières minutes, là, je peux peut-être parler de cette enquête du BEI qui a été enclenchée. Donc, le Bureau des enquêtes indépendantes qui va se pencher sur une intervention, ça s'est passé samedi soir, cette semaine, donc en fin de semaine. La police de Québec est allée arrêter un suspect et le suspect a perdu conscience. Il se trouve actuellement dans un état critique. Élément déclencheur de l'intervention, c'est à 22h30. Une personne qui s'est présentée dans un domicile où il y avait une ordonnance qui lui interdisait d'y mettre les pieds. C'est important dans tout ça. Et là, les policiers auraient procédé à l'arrestation de la personne. Ils l'ont transporté pour détention, mais pendant sa détention, la personne aurait subi une perte de conscience. Et c'est ça, la nouvelle. Donc, les policiers qui l'accompagnaient auraient prodigué les soins à cette personne-là jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Le suspect a ensuite été transporté dans un hôpital et son état est jugé critique. Dans les circonstances, c'est là que le BEI enclenche une enquête. Donc, ça s'est fait hier après-midi. On veut savoir l'implication des agents du service de police de la Ville de Québec dans le dossier, c'est laquelle. Donc, il y a 5 enquêteurs qui ont été mandatés pour faire la lumière dans cette affaire-là. C'est souvent le cas quand il y a des circonstances du type dans un événement. Les services de soutien d'un corps de police extérieur, sont souvent amenés... enquêter. Je vous rappelle et on rappelle que l'organisation d'enquête arrive comme ça dans des dossiers chaque fois qu'il y a une personne qui décède ou qui est blessée gravement dans une intervention policière. C'est les informations que j'ai pour le moment. Si vous avez été témoin de quoi que ce soit, vous savez que vous pouvez aller sur le site du BEI pour parler à quelqu'un. Mais c'est dans les dernières nouvelles que l'on a récoltées dans l'actualité. Prix du baril, ben là, on flambe les prix, c'est sûr. Est-ce que l'essence va venir à 2 $ d'ici le week-end? C'est une question qu'on se pose. Et ça, c'est dû à quoi? Le conflit au Moyen-Orient. J'ai fait un petit résumé en fin de semaine de tout ce qui s'est passé. Puis, entre autres, on a eu des frappes massives américaines, israéliennes en Iran. On a eu une riposte iranienne contre Israël et les pays du Golfe. Nouveau guide suprême iranien qui a été nommé, le fils de l'autre. Alors ça, ça fait des mécontents aussi parce qu'on veut une prolongation du système islamique qui était en place déjà. Un conflit qui s'est étendu régionalement. Et le pétrole, l'économie mondiale, qui sont fortement affectés. Vous êtes un peu anxieux, n'allez pas voir vos placements, mais le prix du pétrole, ça a dépassé 115 à 120 $ le baril, et ça monte encore en début de matinée. On a vu ça, c'est le niveau le plus élevé depuis 2022. Et là, les marchés craignent une perturbation du détroit d'Ormuz par lequel on transite environ 20 % du pétrole mondial. Voilà pourquoi on se pose la question. À nos bornes, est-ce qu'on aura les fragments de tout ça? Est-ce qu'on aura les répercussions de tout ça? Sachez qu'Emmanuel Macron à l'international, c'est sa priorité aujourd'hui, soit d'assurer un passage débouché du détroit d'Ormuz, mais aussi en sécurité.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Niaccarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus avec Antonine Iaccarini. Antonine, tout à l'heure, aux alentours de 13h05, avec Luc La Liberté, on va faire le tour de cette historique de hausse du prix de pétrole, ce que ça a amené aux États-Unis, au Canada, en termes de répercussions. Mais là, il est déjà 1,76 à Longueuil. Et c'est l'expert Yvan Clich, spécialiste en énergie au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, qui a dit « Attendez-vous à ce que ça soit 2 $ ce week-end ». Ça va commencer à être dur pour Donald Trump de dire c'est très positif ce que je fais en Iran, même s'il a parlé de, tu sais, c'était un petit prix.
Oui.
Un petit prix à payer.
Oui, puis ça ne durera pas longtemps non plus, là, une couple de semaines. Ouais.
Peuple américain, le prix de l'essence va monter. Vous courez vers les banques alimentaires. Mais c'est un petit prix à payer pour ma guerre.
Non, puis quand le prix du baril de pétrole augmente, c'est vraiment toute l'économie, tous les prix qui sont affectés. Et les Américains ne sont déjà pas très chauds à l'idée d'aller faire le gendarme mondial. Hein. Même si les États-Unis font ça depuis des décennies, c'est un peu un rôle qui leur est tombé dessus par les circonstances de la géopolitique. Parce que dans la culture américaine, c'est l'Amérique d'abord. C'est conquérir notre territoire à nous et après ça, s'assurer qu'on est en sécurité, oui. Mais de là, aller faire tomber des tyrans un peu partout dans le monde pour le plaisir, il faut que les Américains comprennent très, très bien qu'on n'a pas d'autre choix. Hein, ça a été très long avant que les Américains veuillent embarquer dans les guerres mondiales parce qu'il fallait le justifier. Puis quand les présidents ont décidé d'y aller, il y a un coup politique à tout ça. Et le mouvement MAGA est tout particulièrement isolationniste. Ne croit pas aux institutions multilatérales, pense qu'il faut concentrer nos énergies, nos ressources chez nous d'abord. Donc, ça va devenir effectivement difficile pour M. Trump quand les gens vont commencer à sentir le prix à la pompe.
Fait que d'écouter notre ami Benjamin Netanyahu, c'était peut-être pas la bonne idée pour Donald Trump.
Bien, c'est ça. Les Américains peuvent se dire, bien, oui, on est allié avec Israël, mais tu sais, comparons par exemple avec ce qui s'est passé en Irak ou en Afghanistan. En Afghanistan, les États-Unis avaient été attaqués sur leur territoire et il y avait l'entente de l'OTAN qui entrait en ligne de compte. C'est-à-dire quand un des membres de l'OTAN est attaqué, tous les membres de l'OTAN défendent ce membre de l'OTAN. Donc ça, c'était un cas bien particulier. Ça a été coûteux, l'Afghanistan. Ça n'a pas donné nécessairement ses fruits, mais c'était une nécessité. Puis je pense que les Américains le savaient très bien. L'Irak, ça a été un autre cas. Ça a été difficile de convaincre. Il y a des gens qui ont suivi, mais on a essayé de convaincre les alliés avant de partir en guerre. Et finalement, ça n'a pas donné des fruits exceptionnels. Ça a été des années très difficiles d'instabilité et des cercueils. Tu sais, les cercueils avec les petits drapeaux américains dessus là, qui rentrent au pays, il y en avait beaucoup. Pour l'opinion publique, ça a laissé des traces aux États-Unis. Donc là, de s'embarquer dans une guerre comme ça qui, somme toute, a certaines ressemblances avec l'Irak, même s'il y a aussi des différences, on souhaite bonne chance à M. Trump pour justifier ça.
Parlant de gens et de politiciens qui parlent des deux côtés de la bouche, on écoute notre ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge.
Bon, réponse rapide à leur demande, non. C'est-à-dire que je ne vais pas rétablir le PEC, qui est un programme qui est fermé, pour lequel on ne fait que traiter les dossiers qui ont déjà été soumis.
Ça, c'était le 26 janvier sur les ondes de Boulevard 102. Mais là, gardons ça! On va sacrer du monde dehors ici qui sont au Québec puis qui parlent français. Mais on dit aux gens du ministère, continuez vos petits voyages à l'étranger pour nous ramener des immigrants. Je comprends plus rien.
Ça fait des années que le gouvernement Legault dit qu'il y a trop d'immigration temporaire et veut réduire les seuils d'immigration. Donc, il y a déjà une dissonance quand on voit que le ministère de l'Immigration va continuer de recruter à l'étranger. C'est sûr que quand tu regardes ça, tu te dis c'est loufoque. Là, on vient de fermer le programme Expérience québécoise. Il y a des gens qui vont devoir quitter, mais on va aller en chercher d'autres à l'étranger. Mais il faut comprendre que il y a des besoins économiques spécifiques, des domaines dans lesquels on va aller chercher des gens. Donc, on ne peut pas tout mettre ces gens-là dans le même panier. Par contre, il faut s'assurer que le gouvernement, dans les orphelins du PEC, je le mets entre guillemets parce que je ne suis pas trop fan de ce terme, mais que les gens qui répondent à ces besoins-là aient été contactés et invités à appliquer dans le nouveau programme là, qui vient remplacer le PEC pour l'immigration économique avant d'aller en chercher d'autres à l'étranger.
Mais oui, là, c'est ça.
Là, c'est juste logique. On me dit, là, j'ai demandé au gouvernement, j'ai posé la question, est-ce qu'on s'est assuré qu'on priorisait vraiment les gens qui sont déjà ici? On m'a dit oui. Par contre, on cherche des éducatrices, on cherche des infirmières, on cherche du personnel dans des domaines bien particuliers. En tout respect pour les gens qui travaillent chez McDo, si tu es gérant chez McDo puis que tu as perdu ton... Tu vas pas devenir éducatrice demain matin. Donc, c'est pas des vases communicants tout le temps.
Je suis entièrement d'accord avec toi. La seule chose... Il y a deux choses qui me dérangent là-dedans. La première, c'est que c'est fait en cachette. Dites-le. La deuxième, c'est... est-ce qu'on peut, premièrement, gérer la crise qu'on a là? Puis après ça, une fois qu'on se sera assuré que tout le monde est placé à bonne place, bien là, recommencer à faire nos missions à l'étranger. Ouais. Je trouve qu'on saute une étape.
Je comprends. Puis politiquement, ça a l'air fou. Puis de toute façon, tout ce qui sort de la bouche de Jean-François Roberge en ce moment, le message ne passe plus. Là. Donc, bonne chance à M. Roberge pour venir expliquer ça. S'il avait décidé de faire une tournée d'entrevue pour expliquer, écoutez, je veux juste vous aviser, il y a quand même des missions à l'étranger qui se passent, mais tu sais, les gens n'écoutent plus de toute façon ce que dit ce gouvernement-là en ce moment. Il est tellement affaibli, le ministre Roberge. Il faut savoir que les missions de recrutement à l'étranger, ça a beaucoup, beaucoup réduit aussi. Parce que moi, il y a une époque, là, on allait recruter...
Les valves étaient ouvertes en tabarouette.
Les valves étaient ouvertes et on disait qu'on voulait recruter en priorité dans des domaines comme les TI, comme la santé, mais on recrutait surtout des gens pour l'hôtellerie puis la restauration là, à travers tout ça. Donc, il y a quand même eu une amélioration. Puis, on a encore des pénuries dans certains domaines, dont dans le domaine de l'éducation, de la petite enfance, de la santé. Donc, est-ce qu'on veut vraiment arrêter nos efforts? Puis, aussi, il faut concentrer nos efforts de recrutement dans certaines régions du monde. Je m'explique, là. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'y limiter. Mais, tu sais, on parle beaucoup de protéger la langue française. Il y a des pays pour qui le français a une plus grande proximité. Je pense à des pays qui parlent des langues latines, comme l'espagnol, l'italien, etc., portugais. Mais je pense aussi à des pays qui ont une histoire plus liée au français. Il y a des pays dans lesquels le français, c'est la deuxième langue. On peut penser à des pays africains. On peut penser aussi à des pays comme le Vietnam. Ça peut surprendre, hein, mais la vague d'immigration des Vietnamiens dans les années 70-80, souvent parlait français parce qu'il y a une histoire de colonisation française à travers ça. Et ça, là, ça veut dire des gens qui apprennent le français beaucoup plus facilement. C'est moins de ressources de francisation. À un moment donné, la CAQ a décidé de dire ben il faut savoir parler français avant d'immigrer. Moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire d'apprendre avant d'arriver. Un Mexicain ou une Colombienne, ça apprend le français en l'espace de quelques mois assez facilement. C'est sûr qu'il y a des pays dans lesquels c'est plus... On part de plus loin. Là. Par exemple, je pense aux personnes qui arrivent de la Chine. C'est très difficile pour quelqu'un qui parle mandarin ou cantonais d'apprendre le français. C'est possible, mais ça prend plus de temps.
Les Ukrainiens qui sont venus ici ou lors de la guerre avec l'invasion de la Russie en Ukraine, ça a été plus complexe aussi faire en sorte que le français soit très acquis rapidement.
Il n'y a pas de proximité linguistique. Puis, mais tu sais, la question, par exemple, des Ukrainiens, ben, c'est des réfugiés de guerre. Hein. Ça, c'est autre chose.
Ouais, exactement.
Quand on parle d'immigration économique, là, on va vraiment trier sur le volet. Puis, il n'y a pas de honte à choisir des gens selon le marché du travail ou pour protéger la langue française. Les réfugiés, ben, c'est sûr que là, c'est selon ce qui se passe dans le monde. Puis, il faut faire notre part aussi du point de vue humanitaire.
On est dans le caucus avec Antonine Iaccarini, segment de 12h05 à 12h30, du lundi au jeudi. Venez nous voir sur twitch.tv/bl. LVD, barre en bas FM. Parce qu'en tout, ton chandail, il est beige?
Oui, blanc cassé. Là.
Ouais, c'est ça, blanc cassé, ouais. Beige. OK, parfait. Je vais te faire entendre justement sur l'immigration un politicien beige. T'es prête?
Oui.
Fais attention.
Je lui ai dit qu'on était favorable, nous, Depuis Paul Gérin-Lajoie, ce qui est davantage de pouvoir en immigration, en culture aussi, on pense qu'il faut aussi régler le déséquilibre fiscal. Donc, on pense pas que le Canada est parfait. On pense que le Canada, c'est le meilleur deal, c'est le meilleur ensemble pour le Québec.
Mais plus de pouvoir en immigration et les pouvoirs totaux, vous vous situez où là-dedans?
Ben, en fait, on a besoin, premièrement, qu'Ottawa nous consulte davantage sur les demandeurs d'asile. Et si on a un grand nombre de demandeurs d'asile comme en ce moment, il faut que les sommes suivent.
Me semble c'est un 30 secondes rempli de mots qui veulent rien dire.
Écoute, moi, là, je suis fan de la nuance dans la vie. Alors, j'ai une tolérance quand même élevée aux teintes de gris dans les réponses, OK? Parce que je trouve que des fois, en communication politique, on est simpliste pour faire la clip simple, OK? Puis, j'ai pas de problème. Mais là, à un moment donné... On va quand même avoir besoin de réponses sur des enjeux.
Ma question était simple, là. Plus de pouvoir ou les pleins pouvoirs, vous situez où? Bien là, en fait, c'est parce que, tu sais, vous savez, on a beaucoup de réfugiés, puis il faut comprendre que...
Oui, je suis d'accord avec toi.
C'est la couleur de ton gilet, là, le nouveau chef du Parti libéral.
Si on devait distribuer des couleurs SICO, là, de peinture SICO, Charles Milliard, il a le beige apaisant.
Ah, j'aime ça, le beige apaisant!
Moi, le beige, j'aime ça. Ça plaît à tout le monde, c'est correct. Ouais. Mais à un moment donné, ça prend des petites touches de couleur et de clarté là, à travers ça. Je veux savoir c'est quoi ta position sur la réforme du B, par exemple. Ouais. Éventuellement, je vais vouloir savoir là, qu'est-ce qu'on fait avec le système de santé. On maintient l'agence comme elle est là? Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Je veux savoir sur la laïcité. La loi 21, hey, mais là, allez-vous la maintenir ou pas?
Attends, j'ai posé la question ce matin à Charles Milliard. Tu vas voir, on a une réponse full concrète.
Que le gouvernement fédéral a compté sur tout ça, c'est une décision qui leur appartient. Mais moi, ce que je peux vous dire, dans un état de droit, ça ne fait pas l'affaire des politiciens, mais toute loi est contestable. C'est normal que dans une démocratie, on conteste des lois. Après ça, si on n'est pas content du jugement d'une cour, là, le peuple a le dernier mot. C'est ça l'utilisation de la clause dérogatoire. Mais on l'utilise après que les tribunaux soient passés. Tu sais, si on vit dans un état de droit, on est bien fiers de ça. On regarde les autres pays, on se compare avantageusement, mais ça vient avec des responsabilités aussi.
OK, mais il est pour ou il est contre la loi de la laïcité?
Bon,
il est où, là?
Là, premièrement, il est sur la clause dérogatoire.
Oui.
Et les libéraux n'arrêtent pas de me parler de clause dérogatoire, mais sur le fond des choses, je ne suis jamais capable de savoir s'ils sont d'accord ou non avec cette loi-là.
Bien, on ne sait pas plus, là.
Parce que c'est bien beau, la clause dérogatoire, là. Puis je pourrais en parler pendant une heure parce que je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit qu'il faut passer avec la clause après les tribunaux. On pourra plus gouverner, mais en tout cas.
Exactement.
Mais sur le fond des choses, là, je vais vouloir savoir exactement. Hier, à Tout le monde en parle, Charles Milliard, ce qu'il a dit, c'est qu'il était d'accord avec le compromis Bouchard-Taylor. OK, tout le monde est d'accord avec ça. Ça, c'est comme la tarte aux pommes. Là. Il y a 6 personnes qui sont plus d'accord avec Bouchard-Taylor. Là. Ça commence à faire longtemps. Les choses ont évolué. Donc, vous me dites, M. Milliard, que vous ne voulez pas élargir, que vous êtes contre. J'ai pas de réponse. Dans la question que tu as posée, je ne sais pas, la loi 21, si on la maintient intégralement ou si on recule, je ne le sais pas. Après, sur les seuils d'immigration, M. Milliard nous dit que... Et c'est un dossier qu'il connaît bien, M. Milliard. Il a été à la tête de la Fédération des chambres de commerce. Mm-hmm. Il s'est beaucoup intéressé. Et une des revendications qu'il avait à l'époque, c'est qu'on devrait mieux définir c'est quoi la capacité d'accueil. Parce qu'il disait, les politiciens nous parlent autant de capacité d'accueil, mais on ne sait pas c'est quoi la capacité d'accueil. Ça s'augmente-tu une capacité d'accueil? Est-ce qu'on fait exprès de la baisser pour avoir moins d'immigrants? Donc, puis, sur sa réponse, quand il s'est fait demander, OK, mais c'est quoi, vous, votre chiffre? Il a dit, moi, je vais y aller par région, région par région. Je veux bien. Mais il faut faire le total à un moment donné.
Oui, il faut faire le total parce que ça se peut que je sois en Beauce puis je décide de m'en aller à Montréal à un moment donné.
Bien, c'est ça l'autre affaire. C'est qu'un immigrant, tu ne l'envoies pas dans une région puis il est attaché là avec des chaînes. Je suis désolée, ça ne marche pas comme
ça. Tu sais, moi, si on m'offre un excellent emploi à un moment donné à Longueuil, bien, ça se peut que je me ramasse à Longueuil puis je vais à Québec.
Puis les chances quand tu es immigrant de retourner à Montréal sont assez élevées. Là,
exactement. Là, une chose qui était, par exemple, plaisante, c'est que Yannick Marceau, notre animateur du matin, dans Marceau le matin, il a posé une question concrète sur Marois Risky.
Bon.
Alors là, sa question était pourquoi vous l'avez exclu?
Bon.
Voici sa réponse.
L'occasion de dire que ce n'est pas un procès contre Mme Risky d'aucune façon. Et ce n'est pas que vous savez pas des choses sur elle, c'est que moi, il me manque des informations sur tout ce qui s'est passé ou pas dans les derniers mois. Alors, il y a eu tellement d'actions que moi, dans ma façon d'être, je préfère laisser les choses comme ça, avoir l'information. Il y a des procédures en cours. Malheureusement, depuis que j'ai annoncé cette décision-là, j'ai eu aucune nouvelle de rien.
Fait que la seule vraie réponse qu'on a de Charles Milliard quand on pose une question, c'est « Allez-vous voter oui ou non au prochain référendum? Oui. » Ça, il dit non!
Mais il dit non, mais il dit qu'en passant, il trouve que c'est très légitime de faire un référendum. Il est très, très nuancé. Honnêtement, ça ne me déplaît pas. Okay?
Mais c'est pas la stratégie. On est encore loin des élections. Oui. Faut pas trop faire brasser d'eau que tu nous parles souvent.
Oui, oui, absolument. On est vraiment là-dedans. Sur Marois Risky, c'est la seule affaire sur laquelle je suis vraiment d'accord avec lui. On le sait pas. Puis sa réponse est correcte. Pour moi, tout ça, c'est correct. Ouais. C'est juste que si tu l'additionnes avec toutes les autres sur la langue, sur la laïcité, sur les seuils d'immigration, vendredi, il y a eu la décision de la Cour suprême sur l'accès aux enfants des demandeurs d'asile dans nos CPE. Puis encore une fois, c'est un long tweet avec toutes sortes de nuances. C'est super, mais c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir comprendre quand même c'est quoi là, le projet politique qu'on nous propose. Ouais. Mais regarde, il vient d'arriver. On va y laisser le temps d'arriver. Mais je vais vouloir savoir, c'est quoi ton seuil d'immigration? Puis, excuse-moi, là, tu dis, je vais consulter les régions. Tu sais, je peux pas croire que ton idée à 6 mois des élections n'est pas un petit peu
non,
faite.
C'est ça.
Sérieusement.
Moi, ça m'énerve, le beige. Je suis pas comme toi, ça m'énerve. Prends une décision.
Chez vous, là, il y a des murs de couleurs.
Mais non, mais prends une décision, Caroline. Tu vas faire quoi? Mais là, je sais pas encore.
Ça te fait-tu penser à un autre...
Tu vas être un premier ministre, prendre une décision.
Ça te fait-tu penser à un autre politicien? Je vais consulter, je vais réfléchir.
T'attendais.
Non.
Lequel?
Christine Frégette.
C'est vrai!
Fait que là, on s'en va peut-être vers ça, là, la gang. Là. Hey. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est plus tranché.
Ouais.
Il est plus tranché, mais il n'est pas simpliste. Hein. Puis en passant, ses tweets sont longs à lui aussi. Là,
oui.
Ça peut être long.
Ah oui, son tweet par réponse à Charles Milliard sur « Imitant la main puis la Constitution », j'ai saigné les yeux.
D'ailleurs,
là.
Ça, c'est une affaire que je voulais vous amener aujourd'hui. C'est qu'ils ont commencé une relation de correspondance. Ces deux-là, ils s'envoient des lettres.
Oui.
Textez-vous.
Ouais, textez-vous. C'est ça. Organisez-vous pour aller prendre un café
ensemble. Allez prendre un café.
On n'est pas obligé de savoir tout ce que vous dites.
On peut faire l'autre midi à la table d'à côté avec vous deux si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mais effectivement, je pense que PSPP, bien qu'il y ait des nouveaux adversaires en face de lui qui, peut-être sur le coup, tu te dis « Ah, j'aimais mieux être face à un François Legault impopulaire puis un peu vieillot. Mm-hmm. » Tu as deux nouveaux chefs un peu plus jeunes, un peu plus dynamiques, mais qui sont quand même un petit peu pas clair sur les positions à prendre. Donc, lui, est-ce qu'il va peut-être tirer avantage de ça pour apparaître comme « Ben, moi, quand PSPP parle, je comprends c'est quoi qu'il me dit. » Tu sais, genre, c'est ça, sa position.
C'est
après
ça,
tu peux être pour ou contre, mais moi, au moins,
tu le sais. Moi, je veux voter pour quelqu'un que je sais qu'est-ce qu'il va faire.
C'est ça.
Pas quelqu'un que je ne sais jamais ce qu'il va faire. C'est ça qui m'énerve. C'est vraiment ce que je veux.
Moi, je trouve quand même que Christine Fréchette est plus claire que Charles Milliard pour l'instant.
Oui.
Cela dit, elle est ministre depuis 2022. C'est sûr qu'elle a pris plus de positions claires. Charles Milliard n'a pas cette obligation-là encore pour l'instant. Et il n'est pas à la période de questions, hein, je le rappelle. Mm-hmm. Il n'est pas député en ce moment, ce qui fait en sorte qu'il lance des choses un peu dans les airs. Il essaie de séduire l'électorat, mais il ne se fait pas répondre par François Legault ou par le prochain chef. Donc, c'est quand même avantageux, là, son petit beige-beige, là, pour l'instant.
T'as entièrement raison. Par texto, on nous dit la chanson de la prochaine campagne électorale du PLQ, 50 Shades of Beige.
J'adore.
J'adore ça. Continuez à nous texto 418-971-1021.
À Boulevard 1021, avec Jeff Fort.
Antonine et Pascal, vous êtes-vous levé de mauvaise humeur comme moi quand j'ai ouvert Radio-Canada et que j'ai vu que le gouvernement du Canada... Hey, c'est assez pour me rendre séparatiste.
Bon.
Dit
ça y est.
Au maire de Laval, Stéphane Boyer, écoute, on le sait que l'ex-maire Vaillancourt vous a volé 7 millions. Il vous l'a redonné après un procès. Fais-y un chèque d'un million parce qu'il faut qu'on aille chercher de l'impôt.
Mais moi, je suis partie à rire, là, Jeff. Je suis partie à rire parce que je me dis ça ne se peut pas et ça ne se pourra pas. Et la journée au bureau sera difficile parce que pour toutes les fois où on lutte avec l'auditoire qui dit mots de politique sale, de crasse, de patente, de corrompu, de... Ben, je peux pas dire qu'aujourd'hui, on pouvait pas laisser place à ce genre de bruit de fond-là des auditeurs. Puis je me suis dit, ça va être dur à débattre. Antonine?
Ben, moi, je suis pas de mauvaise humeur parce que c'est pas le genre de choses qui me met de mauvaise humeur. Si je me mettais de mauvaise humeur, à chaque fois que je vois des absurdités bureaucratiques et gouvernementales, je serais tout le temps de mauvaise humeur. Mais j'espère que la Ville de Laval va se battre jusqu'au bout. Et j'espère que la Ville de Laval sait qu'elle a beaucoup de monde en arrière d'elle pour mener cette bataille-là.
Et justement, pour en parler avec nous, on a le principal intéressé, le maire de la Ville de Laval, Stéphane Boyer, est au bout du fil. Monsieur Boyer, merci beaucoup pour le temps que vous nous accordez à l'émission d'En Jase.
Bonjour, ça fait plaisir.
Monsieur Boyer, on reçoit régulièrement des textos ou des courriels frauduleux. Lorsque vous avez reçu cette communication du gouvernement du Canada, est-ce que vous avez cru à la fraude et vous n'avez pas ouvert le lien?
On l'a pas ouvert et on a essayé d'ignorer.
OK, vous n'avez pas le chéquier des mains en ce moment, là.
Non, puis absolument, moi, c'est ça que je trouve débile dans cette histoire-là. Là. En théorie, il faudrait qu'au prochain conseil de ville, parce que toute dépense de plus de 200 000 doit être autorisée par les élus.
Oui.
Là, il faudrait qu'on autorise d'envoyer un chèque à G20 en cours. Il n'y a pas un élu à Laval qui va voter pour ça.
Donc, vous êtes en train de me dire qu'il faudrait qu'au prochain conseil de ville, devant les citoyens qui se sont fait voler 7 millions de dollars par l'ex-maire Gilles Vaillancourt, vous votiez à l'unanimité de lui redonner 1 million de dollars. Coudonc, ils sont tombés sur la tête, le gouvernement du Canada.
En fait, je comprends d'où ça vient, dans le sens que il y a quelque chose de fou, c'est que vous vous rappelez de Al Capone?
Oui.
Qui faisait un gros trafic d'alcool aux États-Unis pendant les années où c'était rendu illégal aux États-Unis. Au final, il s'est fait arrêter à cause du PISC. Parce que le PISC a pu prouver qu'il y avait un train de vie supérieur aux revenus qu'il déclarait, puis on dit ça, ça veut dire que vous ne payez pas assez d'impôts. Oui. C'est comme ça qu'ils ont arrêté Al Capone. Donc, il y a comme un principe où est-ce que le gouvernement du Canada et du Québec, peu importe que tes revenus soient légaux ou pas légaux, il va t'imposer dessus s'il est capable de prouver que tu as touché ces revenus-là. C'est ce qui se passe avec Vaillancourt, c'est-à-dire que c'est maintenant une autorité publique qui a fait plusieurs millions, on est allé récupérer 7 millions qu'il avait cachés dans des coffres en Suisse. Et là, le gouvernement dit, bon, ben ces revenus-là, vous devez me payer de l'impôt. Mais parce que le problème là-dedans, c'est que le gouvernement, il fait fi du deuxième chapitre de l'histoire, à savoir que cet argent-là a été retourné à la victime, qui sont les citoyens d'Aval. Mm-hmm. Là, c'est qu'il nous demande à nous, la victime, de payer des impôts. Fait que c'est ridicule. C'est comme si tu marches dans la rue, tu fais voler ton portefeuille, puis quand la police te ramène ton portefeuille, il dit, bon, ben là, l'argent que vous avez dans votre portefeuille, il faudrait que vous nous payiez de l'impôt là-dessus.
Mais
c'est vraiment dérisoire comme situation.
Maire Boyer, vous êtes maire de Laval, là, vous voyez tout ça se placer devant vous, vous entendez la nouvelle, vous jouez dans la nouvelle. Deux choses. Pensez-vous que M. Vaillancourt est content ce matin de cette nouvelle-là? Avez-vous des contacts avec Gilles Vaillancourt? Puis la deuxième que je vous poserais, finalement, c'est une erreur de bureaucratie où quelqu'un ne s'est pas posé de questions puis qu'il a juste fait le protocole normal. Puis ça, c'est un problème?
Bien, pour la première question, non, j'ai pas de contact avec Vaillancourt. C'est les avocats qui l'ont engagé, qui parlent aux avocats de la ville de Laval pour nous exiger les impôts. Puis, en effet, ça semble l'application un peu aveugle d'une procédure. Mais au-delà du cas de Jay Vaillancourt, qui est absolument absurde, moi, ça me soulève des questions aussi. Ça a dû arriver dans l'histoire du Canada où est-ce que d'autres victimes se font imposer comme ça? C'est qu'il y a peut-être une réflexion de société à faire, puis est-ce qu'il ne devrait pas avoir un mécanisme que quand un criminel rembourse une victime, que ce soit pas. Parce que là, c'est beau, là, la ville, on a les moyens de se battre contre le gouvernement du Canada, même si on n'est pas armes égales, mais j'ose pas imaginer un citoyen, un individu à qui ça aurait pu arriver à un moment donné. Que l'ARC cogne à sa porte pour dire « Donnez-moi l'argent », ses chances de gagner sont faibles. Donc, c'est sûr que ça soulève des questions qui sont importantes, l'application un peu aveugle de cette façon de faire-là.
Oui, on pourrait peut-être mettre des exceptions. J'imagine que le gouvernement du Canada a pas, ou les gouvernements en général n'ont pas trop envie que les paiements se fassent directement aux victimes sous leur nez et ne veuillent pas perdre de deniers publics d'impôts comme ceux-là. Et on comprend que les fruits de la criminalité sont imposables, mais ça se fait des exceptions. Le gouvernement du Québec a fait cette exception pour Laval. Pourquoi le fédéral refuse de faire la même chose que le gouvernement du Québec a accepté de faire?
Et c'est exactement ça qu'on demande. Vous l'avez dit, là, en 2016, il y a déjà 10 ans, le gouvernement du Québec a vu l'absurdité de la chose. Ils ont adopté un décret pour annuler l'imposition de la ville, parce que le gouvernement du Québec voulait eux aussi imposer, mais ont compris depuis longtemps que ça n'avait pas de bon sens. Là, on est rendu 10 ans plus tard avec le gouvernement fédéral, donc on demande au gouvernement la même chose, c'est-à-dire que le ministre des Finances peut, dans des cas exceptionnels, adopter un décret pour annuler une avis de cotisation. Et à mon sens, c'est une situation exceptionnelle qu'on, qu'on vit. Et il faudrait qu'il utilise son pouvoir pour l'annuler.
Le ministre québécois qui était aux finances à l'époque, c'était Carlos Letao, qui est maintenant député fédéral. Est-ce que vous savez où vous allez parler à M. Letao pour essayer de le convaincre qu'il parle à François-Philippe Champagne et que François-Philippe Champagne, à son tour, puisse parler à l'Agence du revenu pour aller vous chercher cette exception-là?
Oui. Moi et mon administration, on a parlé à plusieurs personnes, autant aux fonctionnaires à Ottawa qu'aux élus. J'en avais parlé aussi à l'ancienne ministre des Finances, Mme Leboutier. Il y a de l'écoute, les gens comprennent, mais il n'y a rien qui bouge. C'est ça qui est un peu frustrant. Puis c'est ça qui fait qu'on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que ça fait quand même plusieurs mois que moi j'ai ces discussions-là dans des réunions. Le ministre est au courant qu'il y avait cette situation-là. Mais malheureusement, on dirait que les fonctionnaires s'attirent à juste appliquer ce qu'ils ont toujours fait. Puis politiquement, on sent que c'est une patate chaude avec laquelle probablement personne n'a voulu toucher. Mais là, on arrive un peu au moment fatidique où est-ce qu'on reçoit des mises en demeure des avocats de Givenchy, puis mon administration me dit « Ben là, on n'a pas le choix. »
Attendez, là. Vous recevez des mises en demeure d'un voleur de 7 millions de dollars à ses concitoyens pour qu'ils reçoivent un chèque d'un million de dollars. Et là, vous me dites « Les politiciens ne veulent pas se mouiller. » Ben là, que les politiciens se mouillent au plus vite, parce que je vais vous dire une affaire, c'est un dossier qui n'a pas de sens pour eux autres politiquement. Là.
Ça répond à la question, M. Vaillancourt, il est au courant de ce qu'il veut de ça, tu sais?
Oui, bien c'est sûr que lui, il est au courant. Là, c'est ça qui se passe, c'est que ses avocats disent, là, vous devez nous payer, Ville de Laval. Et là, moi, je ne peux pas accepter ça comme représentant des soins lavallois.
Vous êtes maire de Laval. En ce moment, vous dites, on espère que ça soit favorable à notre égard. Si ce ne l'est pas, qu'arrive-t-il?
Bon, si jamais le fédéral annule pas les paiements d'impôts, la prochaine étape risque d'être une poursuite entre la Ville de Laval et Gévaillancourt. Donc, ça veut dire des frais juridiques, ça veut dire des risques, ça veut dire un procès pendant 2, 3, 4 ans. Fait qu'évidemment, personne ne veut jouer dans ce film-là. Ça fait 13 ans depuis la commission Charbonneau. Il est vraiment temps qu'on tourne la page puis qu'on passe à autre chose. Fait que j'espère que le politique à Ottawa va entendre raison et va agir parce que la solution est quand même simple. Elle existe. Il n'y a rien de compliqué là-dedans.
Mais là, il y a du culot tout le tour de la tête, M. Vaillancourt, pour vouloir faire des procédures judiciaires contre la propre ville qui a volé.
Oui. Je vais lui laisser le fardeau de ses décisions. Mais en effet, c'est assez déplorable.
Et juste pour rendre la chose encore plus ridicule, M. Boyer, expliquez-nous ce que vous faites avec les 7 millions de dollars.
Il y a 37 personnes qui avaient été accusées à l'époque, mais c'est plus large que ça le nombre de personnes qu'on pense qui ont été dans la corruption. Nous, dans les dernières années, on a poursuivi 200 individus et entreprises pour lesquels on a trouvé des preuves qu'il y avait eu de la corruption, de la collusion. On a récupéré 60 millions de dollars. Et plus spécifiquement, l'argent qu'on a récupéré de Givenchy, on a fait un fonds avec qui est destiné aux enfants des quartiers défavorisés de Laval. Donc, ce fonds-là, à chaque année, il génère des revenus et à chaque année, on distribue environ 600 000 $ à des organismes.
Alors là, le gouvernement canadien veut voler de l'argent que vous donnez à des enfants défavorisés de Laval.
Une façon de le dire.
Ils ne sont peut-être pas en pleine conscience de cause, mais c'est ça la conséquence des gestes qui sont posés en ce moment, en effet. C'est que si le gouvernement persiste à récupérer son impôt, au final, on va sortir de l'argent qui, en ce moment, va à nos jeunes des quartiers défavorisés. Donc, c'est totalement ridicule.
Est-ce que vous pensez que l'Assemblée nationale va se mobiliser? Là, c'est la relâche encore, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un parti, sûrement, qui va vouloir déposer une motion pour vous appuyer, pour lancer un message au fédéral. Sentez-vous là, que Québec est en train de se mobiliser pour vous aider?
J'ai parlé notamment au ministre des Relations internationales, qui est aussi le ministre responsable de Laval, Christopher Skeet. Et il faut comprendre, parce qu'à l'époque, ça avait fait aussi un incident diplomatique, parce que quand la ville et le gouvernement ont allé chercher les fonds dans les comptes de banque en Suisse, la Suisse avait accepté de retourner l'argent à condition que l'argent aille à la victime puis qu'il n'y ait pas de taxes et impôts qui soient chargés dessus.
Uh-huh.
Donc, le gouvernement du Québec a déjà joué dans le film d'avoir un enjeu diplomatique avec la Suisse. Donc, évidemment, pour l'instant, moi, le ministre des Relations internationales nous appuie à 100% au niveau du Québec. Donc, c'est certain que s'il y a des élus provinciaux qui souhaitent joindre leur voix pour défendre le dossier d'Aval, moi, je vais en être bien heureux.
Mais là, vous parlez beaucoup de procédures judiciaires, de ci, de ça. Ça reste que c'est des frais qui seront payés par les contribuables au bout du compte également? Est-ce que c'est pas ajouter l'insulte à l'injure dans les dossiers?
Bien, c'est pour ça que je demande aujourd'hui une intervention politique, parce que ça l'éviterait un éventuel procès, ça l'éviterait des éventuels frais. Et aussi, c'est que plus les années courent, l'Agence du revenu, normalement, il charge d'intérêt. Donc, en fait, c'est passé que dans les dernières années, ce que je comprends, c'est que j'ai vu en cours contester le paiement de son de ses impôts. Il n'a pas réussi à faire entendre raison à l'ARC. Et donc là, l'ARC dit « Tu dois payer tes impôts maintenant. » Donc, il se retourne vers nous. Mais si on devait enclencher des procédures juridiques contre Vaillancourt, si ça prend 2 ans, 3 ans, terminer le procès, ben peut-être que le million va être rendu 1,5 million, 2 millions, parce que les intérêts vont avoir couru pendant ce temps-là. Donc, il n'y a personne qui a intérêt à faire perdurer tout ça. On veut tous tourner la page sur l'époque de la corruption. La solution est simple, c'est un décret du ministre des Finances fédéral.
Monsieur Boyer, maire de Laval, Stéphane Boyer, on vous remercie infiniment pour le temps que vous avez passé avec nous. Les gens, les citoyens de toutes les municipalités au Québec ont besoin de politiciens comme vous.
Ben merci, j'apprécie énormément.
Merci beaucoup, lâchez pas. Au revoir. On vole de l'argent aux enfants défavorisés.
Pour payer les impôts de Gilles Vaillancourt.
Pour payer les impôts de Gilles Vaillancourt. Puis ce crosseur-là, là, j'hésite pas à prendre le terme, va jusqu'à pousser l'insulte à l'injure de poursuivre la ville de Laval
qui
a volé pour 7 millions.
Jeff, il faut qu'il paye 1 million en impôts.
Comment tu veux?
Il l'a pas.
Non, il l'a pas.
Il l'a pas.
Puis lui,
qu'est-ce
il se dit, ma réputation est déjà entachée. Probablement que c'est la réflexion qu'il a eue. Ben,
il dit,
on y va.
Être dans le rouge d'un million ou avoir l'air d'un
J'aimerais
colon.
Ça savoir la valeur de la maison de Gilles Vaillancourt. Il doit avoir encore une cabane de luxe.
Mais lui, il n'y en a plus de scrupules. Là. Il l'a dit, il avait caché de l'argent en Suisse.
Plus rien à perdre.
Non, il n'y a plus rien.
Sa femme flochait des liasses de pièces
dans la
toilette quand Lupac est rentré.
Mais c'est là où toute cette histoire-là est débile, pour reprendre les mots du maire. Là. Il a ouvert la conversation avec nous en disant que c'est complètement débile ce qui se passe. Moi, ça m'a fait sourire, parce que tu vois un peu qu'il sort de la politique pour amener juste l'émotion aussi sur la table, puis on le comprend, tu sais, qu'il, lui, est dépassé par tout ça. Mais il y a quelque chose d'administratif qu'il faut changer, parce qu'il y a aussi à se souvenir. Si ça vient aujourd'hui dans l'actualité, combien d'autres dossiers peut-être sont arrivés auparavant?
Mais c'est ça, le gouvernement fédéral ne voudra pas se priver de cet argent-là. C'est ça l'affaire. C'est pour ça qu'il faut trouver une mesure d'exception quand c'est le contribuable qui est pénalisé. Puis en plus, on n'arrête pas de dire que les municipalités manquent d'argent. On est d'accord?
C'est ça.
Il y a un déséquilibre fiscal entre le fédéral puis le provincial, puis entre le provincial puis le municipal. Puis là, c'est le fédéral, je veux dire, ça c'est encore plus absurde, qui fait bien trop d'argent pour le nombre de services qu'ils donnent, qui va aller voler de l'argent. Puis là, tu dis voler, c'est sûr qu'eux, ils viennent chercher les impôts qui leur sont dus, là, mais c'est du zèle administratif et c'est d'une grande absurdité. C'est de l'argent qui sert vraiment sur le terrain.
Nos gouvernements sont censés prendre soin des gens plus défavorisés et démunis. Ils vont aller leur voler 1 million.
Ben oui, puis on sait bien, excusez, là, je veux pas être méchante, mais l'argent qui est au fédéral, on sait qu'on fait moins de chemin avec une pièce au fédéral qu'une pièce au municipal.
Ben,
là. C'est tellement loin du terrain.
C'est clair, net et précis. Parlant d'absurdité, mesdames, je vous fais entendre ceci. Ça, c'est le bruit de joie d'une centaine de jeunes qui sont contents de voir 3-4 de leurs comparses frapper une personne aînée. C'est ça, le bruit de ceci.
C'est vraiment choquant. Je pense qu'il n'y a personne qui a vu ces images-là en fin de semaine puis qui ne s'est pas dit que c'était dégueulasse et injustifiable. Je me demande, la première question que je me pose toujours, puis je le sais que c'est pas toujours la faute des parents, mais mettons, là, toi, tu vois ton enfant faire ça, encourager ça, filmer ça, ne pas dénoncer ça.
Embarquer avec l'autre jeune.
Que la DPJ vienne me chercher, mon enfant s'en va au trou. Peut-être c'est une façon de parler. Là.
Oui, oui.
Elle m'a dit rien à faire. T'as plus de cellulaire, t'as plus de PlayStation.
T'as plus rien.
T'as plus rien, puis tu vas aller réfléchir, mon petit garçon.
C'est justement parce qu'il n'y a pas assez de parents dans la vie de ces jeunes-là? Tu peux se poser la question pour que ces jeunes-là aillent là. Moi, je me suis même posé la question sur de l'intelligence artificielle tellement j'étais dépassée par la situation.
Ben oui, j'ai fait,
je peux pas croire qu'une gang de jeunes s'attaque à une personne.
Ben moi, je peux le croire parce que l'effet d'entraînement, tu sais, bon, quand on est jeune, on est toujours un petit peu plus, des fois influençable, impulsif, tu sais, oui. Il peut y avoir des débordements, puis on en a vu souvent. Mais moi aussi, je suis rendue que je vois des affaires de même, puis je me demande toujours si c'est l'intelligence artificielle au départ. Puis je veux pas accuser les parents en passant, là. Je me dis
moi non
juste,
plus.
On a un échec social aussi là, quand on voit des affaires comme ça.
C'est exactement ce qu'on va parler avec Roger Ferland dans un instant à On en jase sur Boulevard 102. Est-ce qu'on est allé trop loin dans le balancier de la prévention et qu'on a oublié la répression et que ça fait en sorte qu'il y a des petits voyous comme ça qui s'en prennent à des personnes aînées? On en parle après cette courte pause à On en jase à Boulevard 102. Hein?
OK, alors on commence avec les meilleures offres locales au meilleur prix. Choisis et négociez pour vous par Mercado.fm.
Obtenez une entrée pour deux personnes d'une valeur de 84 $ à 42 $ chez Défi Évasion.
Adjugé. Prochaine offre.
Et un accès au bain d'une valeur de 47 $ à 23 $50 au Spa des Neiges.
Adjugé à monsieur, madame qui écoute la radio dans son auto, au boulot, n'importe où. Divertissement, soins, hébergement, restaurant. Mercado.fm.
Si tu aimes les plats de chez nous, viens chez Trad. Si tu aimes bien servir, viens chez Trad. Si tu aimes les cornichons sur ta poutine maison. Ah ouais, ben merci, je vais essayer ça. Si tu aimes les bonnes idées, viens chez Trad. Les marchés tradition, pour vous avant tout.
Ta voiture est comme pas neuve, mais t'en veux une neuve? On peut reprendre ta comme neuve et même t'en trouver une neuve. Pour une voiture, c'est Charlesbourg Toyota. Évalue ta comme neuve au comme-neuve.com.
Lisez les instructions sur l'étiquette.
Les aliments gras, l'alcool et l'excès de sucre peuvent tous exercer une pression sur votre foie, entraînant une baisse d'énergie, un sommeil agité et une augmentation du tour de taille. Aidez votre foie à rester en bonne santé et à nettoyer votre corps avec Active Liver de New Nordic. Disponible en comprimé ou en gélifié, les ingrédients d'Active Liver, comme les extraits de chardon-marie et de curcuma, sont reconnus pour favoriser la santé du foie. Disponible chez Pharmaprix, Jean Coutu ou en ligne sur Amazon et newnordic.ca.
Pour l'achat et l'installation de vos pneus, c'est Automod. Automod vend toutes les grandes marques de pneus à des prix ultra compétitifs. Réservez vos pneus d'ici le 3 avril et obtenez 50 $ en carte cadeau, applicable chez Automod. Prenez rendez-vous maintenant, automod.qc.ca.
Non, c'est pas bruyant. Ben non, tes chums vont pas te juger. Puis on s'en fout du look. C'est pour dormir, anyway. Puis c'est bien moins dérangeant que tes ronflements.
Pour retrouver un bon sommeil et pour retrouver votre énergie, clinique du sommeil Lessard.com.
Depuis plus d'un siècle, Junot et Frères est la référence en peinture et décoration. Ils ont un large inventaire de produits, dont ceux de marque Sico. Rendez-vous en succursale pour des vrais conseils de pros. Junot et Frères à Québec sur Pierre-Bertrand ou nouvellement à Lévis sur Guillaume Couture.
Le printemps arrive et les routes vous attendent. Chez Volkswagen Saint-Nicolas, profitez de 90 jours avant votre premier paiement sur le financement de votre prochain Volkswagen neuf. Une offre applicable sur tous nos modèles. Que vous cherchiez un VUS spacieux, une berline confortable ou simplement un véhicule pour vos déplacements quotidiens, vous trouverez le modèle parfait parmi notre large inventaire disponible pour livraison dès maintenant. C'est le moment idéal pour passer au volant d'un nouveau Volkswagen. Volkswagen Saint-Nicolas, passez-nous voir aujourd'hui et choisissez le vôtre.
À Boulevard 102. Jusqu'à 14h, on en jase.
Boulevard 102.1.
Avec Jeff Fortin et Pascal CV.
Midi 50 minutes exactement, vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1. C'est votre émission On en jase, l'essentiel de l'actualité qui s'y retrouve. Excellente entrevue avec le maire de Laval, Stéphane Boyer, qui nous explique comment le gouvernement canadien l'échappe totalement en demandant à la ville de Laval de redonner 1 million de dollars à Gilles Vaillancourt, qui avait volé la ville pour 7 millions de dollars pour paiement d'impôts. 1 million de dollars qui sert présentement aux enfants démunis. Ça va se retrouver sur le blvd.fm immédiatement après l'émission. À la météo, c'est 8 degrés présentement à Québec. Il y aura peut-être quelques averses en journée. 6 degrés demain avec pluie intermittente mêlée de neige. Et mercredi, ça sera moins 3, neige ou pluie verglaçante. Et on va souhaiter que ce ne soit pas le cas à Québec parce que jusqu'à présent, ce n'est pas dans les régions qui sont mentionnées. Mais sachez que mercredi, c'est les accumulations de plus de 30 mm de pluie verglaçante qui pourraient être similaires à celles reçues le 5 avril 2023, lors duquel plus d'un million de foyers avaient été privés d'électricité au Québec. On parle présentement des régions de Montréal, Outaouais, la Mauricie et la Montérégie qui seraient touchées, mais il ne faudrait pas exclure Québec non plus. Donc, on va surveiller la météo de près pour vous d'ici à mercredi. Pascal, en manchette, qu'est-ce qu'il faut retenir dans l'actualité? Il y a une grosse enquête du BEI.
Oui, enquête du BEI. On est sur une intervention de la police de Québec de samedi soir dernier. Il y a un suspect qui a perdu conscience et qui se trouve actuellement dans un état critique. On a peu d'informations, mais ça ne semble pas être entre les mains des policiers. Je vous explique. Alors, 22h30 samedi soir, on intervient parce qu'il y a une personne qui est dans un domicile où il n'a pas le droit d'être. Il y a une ordonnance qui lui interdisait d'y mettre les pieds et il y était. Alors, les policiers sont arrivés, ils ont procédé à l'arrestation de la personne. Ils l'ont transporté pour détention, c'est ce qu'on dit du côté du BEI. Et lors de sa détention, c'est là qu'elle aurait subi une perte de conscience. On veut expliquer le tout. C'est souvent le cas dans une enquête du BEI. Je vous rappelle que c'est une organisation qui, chaque fois qu'il y a une personne qui décède ou qui est blessée gravement dans une intervention policière, arrive, ou encore durant sa détention, comme dans ce cas-ci, et doivent enquêter. C'est 5 enquêteurs qui ont été mandatés pour faire la lumière sur cette affaire-là. On aura plus d'informations un peu plus tard, d'après moi, cette semaine. La Ville de Québec a demandé une aide pour des travaux urgents sur 2 églises ici de la ville, donc 1,5 million de dollars pour celle de Saint-Jean-Baptiste et 1,2 million de dollars pour celle de Très-Saint-Sacrement. Alors, c'est celle en haut de la côte Saint-Sacrement, là, en décrépitude depuis des années maintenant. Et c'est l'administration Marchand qui a demandé cette aide gouvernementale-là. Elle l'a demandé à Québec. On veut des travaux urgents. La valeur des travaux, 3 millions de dollars pour les 2 églises patrimoniales. Alors ça, c'est une nouvelle qui vient de sortir aussi. Triple vocation pour ces églises-là. Des fois, on parle de vocation culturelle, communautaire, artistique. Des fois, elle est vendue au privé aussi, la dite église, à des gens qui vont en faire des logements. Mais en ce qui concerne celle, entre autres, du Saint-Sacrement, on veut une contribution financière ou du fonds d'urgence du ministre de la Culture et on dit que c'est prioritaire comme travaux. Sinon, accident mortel d'autobus à Sainte-Rose-de-Watford. On peut faire un clin d'œil à la jeune victime qui a été identifiée, Xavier Landry Rousseau, 13 ans. C'est dans cet accident-là que vous parlez encore beaucoup aujourd'hui. Samedi, sortie de route d'un autobus. Alors, c'était des jeunes qui faisaient partie d'un groupe de cadets qui prenaient place dans l'autobus jaune. On allait à une compétition de tir à air comprimé. Il y a eu 4 blessés graves, 10 blessés mineurs. Et malheureusement, on a perdu Xavier Landry Rousseau, qui était de Scott-en-Beauce. On parle encore de tout ça comme étant une forte tragédie dans la région. On comprend, on est de tout cœur avec les gens qui sont déplorés.
Catherine Roy, journaliste à TVA Québec, sera avec nous via téléphone tout à l'heure, aux alentours de 13h30. Elle est là présentement à Scott-en-Beauce, donc elle va nous raconter comment tout cela se produit, l'enquête sur l'accident, et surtout comment on va accompagner les jeunes. Alors, retour à l'école demain.
5e anniversaire de l'Aube-Rivière 2.0, cette ressource pour l'itinérance ici dans la ville de Québec. Rappelez-vous, on jasait de déménagement sous l'ère Labombe, mais on est allé chercher le commentaire de l'ex-maire de Québec, Régis Labombe, dans Le Soleil pour en parler. Déjà, il disait qu'il y a plusieurs années, il fallait penser gros, qu'on voyait que l'engrenage était malheureusement bel et bien huilé, donc une période très difficile, et ça a été marqué encore plus par la pandémie. On battait son plein en termes de demande d'itinérance autour de 2021, et depuis, c'est 10% chaque année, en addition qu'on a en termes de demande au niveau de la crise de l'itinérance à l'Aube-Rivière. Nomination partisane, François Legault s'assure que ses fidèles qui sont haut placés au gouvernement vont rester en poste. Alors, lui va quitter le 12 avril prochain, mais il s'assure que ceux qui lui ont été loyaux restent. Pourquoi? Parce qu'il prolonge les mandats de 2 alliés de longue date, dont les contrats venaient à échéance tout juste après la prochaine élection. Alors, ils vont conserver leur place dans la haute fonction publique, malgré un éventuel changement de gouvernement. Ça fait l'actualité. Nouvelle règle en immigration, Ottawa serre la vis à des dizaines de milliers de demandeurs d'asile. Alors, avocats et organismes qui s'attendent à ce que les changements provoquent assez de confusion, assez d'incompréhension aussi. C'est des dizaines de milliers de demandeurs d'asile déjà au pays qui voient finalement leur chance d'avoir un refuge au Canada compromise. Et c'est dans le projet de loi Omnibus C-12. Aujourd'hui, on franchit la dernière étape au Sénat, donc on prévoit une série de changements. Et ça, on dit que c'est pour renforcer l'intégrité des systèmes d'immigration. Vous voyez que ça fait encore beaucoup jaser. À l'international, Mark Carney a rencontré Donald Trump. Pour la première fois, on a parlé. C'était pas en face-à-face, c'était au téléphone. Premier coup de fil direct depuis octobre dernier. Bien sûr, c'était assurément les points chauds, qui sont toujours les mêmes d'il y a quelques mois. L'économie, Maintenant, on a ajouté l'évolution de la situation au Moyen-Orient et les relations commerciales entre les deux pays. On dit qu'on veut pas perdre le contact, on veut un contact étroit, malgré le fait que ça peut toujours être houleux. Et à l'international, je termine avec cette crise au Moyen-Orient. Bien sûr, en fin de semaine, des nouveautés, tristes nouveautés, des frappes massives américaines et israéliennes en Iran, une riposte iranienne contre Israël et les pays du Golfe. Il y a un nouveau guide suprême iranien qui a été nommé, c'est le fils de l'autre. Alors, après la mort de l'ancien guide suprême le 28 février dernier, c'est Mojtaba Khamenei, c'est le fils d'Ali Khamenei qui a été nommé nouveau guide le 8 mars dernier. Alors, hier, succession qui est controversée et qui marque la première transmission quasi dynastique du pouvoir en Iran.
Et automobilistes, sachez que ce conflit au Moyen-Orient aura des répercussions sur vous aujourd'hui à Longueuil. L'essence est à 1,76,9. Il y a le spécialiste en énergie au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, Yvan Clich, qui mentionne que le prix à la pompe pourra augmenter jusqu'à 2 $ le litre ce week-end. Donc, on va payer très cher pour ce conflit au Moyen-Orient. Je vous ai fait écouter l'audio avant la pause de cette centaine de jeunes qui s'amusent à filmer et à crier leur joie de voir 3-4 de leurs amis voyous tabasser une personne aînée qui servait de gardien de sécurité pour un dépanneur qui se fait notamment piller régulièrement par les jeunes de l'école Horizon à Repentigny. Pour en parler avec nous, on a l'ex-enquêteur au SPVQ, Roger Ferland. Roger, comment vas-tu?
Je vais très bien, bonjour à vous.
Roger, premièrement, je te souhaite joyeux anniversaire.
Merci, mon cher.
Très heureux de t'avoir en onde avec nous pour ton anniversaire. Roger, je ne passerai pas par quatre chemins. On fait trop de prévention puis pas assez de répression. Quand est-ce qu'on va justement y aller plus fortement avec les jeunes pour les empêcher de triper sur un événement comme ça?
Ben, c'est sûr, Jeff, qu'on a beaucoup trop juste parlé. À un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'on agisse. Puis sans qu'on revienne à ce qui se passait à une autre époque, à un autre moment, là, en ce moment, ce qui pousse dans nos cours, là, c'est vraiment ce qu'on a laissé cultiver au fil des années. Les parents ont laissé râler une partie du système en se disant, certains parents me disent, je peux même pas dire non à mon enfant, j'ai pas le droit de le corriger, à l'école, tu n'as même pas le droit de prendre des propos, des fois, un petit peu violents, tu peux pas le prendre par le bras, tu peux pas... Là, on me dit tout ce qu'il faut qu'on fasse. Et ils viennent neiger, on avait du verglas un peu dans les cours d'école. Ben les enfants, il faut qu'ils marchent à genoux pour pas tomber. Les tribunaux, c'est pareil. Là, je pense que assez, c'est assez. Là. On est rendu beaucoup trop loin dans ce qui était une logique. En fin de semaine, Jeff, je parlais avec un de mes amis voisins ici, où est-ce que je suis en ce moment. Puis il m'expliquait un nouveau système qui est en train de se mettre en place, le Trad Dad. Le traditionnel papa, le trad dad. Mm-hmm. J'ai dit, ah, regardons ça. Mais tu sais, il va falloir qu'on ramène des limites, il va falloir qu'on ramène
ça, un cadre. Ça, c'est le père qui fait peur un peu, là. Comme moi, je fais des fois quand je sors ma grosse voix, mais qui fait en sorte que mes enfants restent alignés sur la bonne traque, là.
Puis tu dis faire peur. Moi, j'ai même pas envie juste de faire peur. J'ai envie de dire, Jeff, il va falloir que tu aies une limite. Il va falloir que tu donnes un cadre, puis l'enfant va jouer là-dedans après. Mais c'est pas vrai que tu rends tes enfants heureux à leur permettre de tout faire. Je le sais qu'aujourd'hui, en 2026, tout est possible. Tu as le droit de choisir à peu près dans n'importe quelle option au niveau de ta vie, n'importe quelle information. Mais je te dirais encore là, trop d'informations dans ce sens-là amènent une certaine angoisse chez nos jeunes en ce moment, amènent de l'insécurité, puis je suis sûr qu'on n'amène pas de meilleure situation. Mais les jeunes qu'on a vus l'autre jour, là, à Repentigny, en fin de semaine, là, je suis complètement découragé. Aucun des jeunes n'intervient. On laisse faire ça. On est obligé de se payer un agent de sécurité pour protéger son propre commerce parce que la police n'est même pas capable de t'offrir ça. Ça va pas bien en tabarnouche. Là.
Est-ce que ça va être dur, Roger Ferland, de renverser les choses que toi, tu as observées? Parce que c'est un courant quand même que tu vois. Tu as été ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec. Tu formes maintenant les policiers de demain. Tu vois les générations passer. Est-ce que c'est une confirmation qu'il y a eu des changements dans cette façon de faire-là chez les jeunes, ou c'est des choses qu'on voyait auparavant puis qu'on ne pourra pas vraiment faire changer?
Oui, ça a changé, Pascal. Je vais t'expliquer. De tous les temps, même les philosophes à l'époque ont dit que les enfants étaient impossibles, ils n'écoutaient plus leurs parents, c'était correct. Alors, il y a un phénomène normal des enfants qui vont toujours un petit peu se rebeller contre l'autorité qui est en place. Mais encore là, il faut que l'autorité soit là. Il faut qu'il reste une limite, il faut qu'il reste un cadre. En ce moment, on en est venu partout dans tous nos systèmes, je te dirais, à élargir ça en disant que non, on doit toujours... Moi c'est quand on me dit « on ne peut pas dire non ». Arrête-moi ça, c'est pas vrai. Ça fait du bien de se faire dire non. Ça fait du bien de voir qu'il y a une limite. Et sincèrement, après ça, tu vas quand même chercher peut-être à la tricher un petit peu cette ligne-là. Mais là, en ce moment, certains prennent le terme en disant que c'est la mentalité woke ou tout ça. Là, on est très à gauche, très à gauche. Moi, j'ai envie de dire, on a perdu le gros bon sens de vue. Là. On a perdu qu'il y avait un cadre. Et je pense que ça, c'est important. Puis là, en ce moment, on ne donne plus de cadre. Puis les cadres, Pascal, que les jeunes se donnent, ben, c'est peut-être à l'extérieur, dans des jeux vidéo, dans l'encadrement avec des influenceurs qui leur donnent que sky is the limit, je peux devenir full riche, je peux faire telle action sans avoir aucune conséquence. Arrêtez, c'est à nulle part, ça. Il n'y a personne qui est comme ça.
Roger Ferland.
C'est pour ça que...
Non, mais je suis tellement d'accord avec toi, Roger. Et pour rappel, on parle avec Roger Ferland, ex-enquêteur au niveau du SPVQ. On parle de ces jeunes qui ont tabassé une personne aînée devant un dépanneur à Repentigny. Roger, je suis tellement d'accord avec toi qu'on parle trop, on écoute trop, on est trop vers le besoin. Et j'ai deux, justement, exemples concrets dans cette situation-là à Repentigny. Il y a eu 5 bagarres dans cette école-là à l'entrée scolaire 2024-2025. Aucune sanction. Il y a des commerçants qui sont atterrés, apeurés par ces jeunes-là. Ils mettent des gardiens de sécurité, des faux gardiens de sécurité, on s'entend, là, des gens qui veulent juste donner un coup de main. Aucune contravention des policiers. Puis là, comme par magie, parce que ça se retrouve sur les médias sociaux, 6 jours plus tard, aujourd'hui, l'école dit « Ah, on a suspendu des jeunes ». Puis là, la police envoie un message aux parents en disant « À partir de maintenant, on va donner des contraventions ». C'est pas aujourd'hui qu'il fallait agir, c'est en 2024.
Mais complètement, complètement, Jeff. Puis moi, je vais te dire, ma limite, là, puis je l'ai souvent dit, regarde, vous m'agaciez un matin, toi, puis Monsieur Marceau, à me dire que vous aviez craint certains policiers. Moi, j'ai envie de vous dire une chose, puis ça, j'aimais ça. Si tu aimes vraiment les jeunes, là, laisse-leur pas faire n'importe quoi. Arrêtons, ça prend une limite, ça prend un cadre. C'est pas mal plus facile de dire à ton enfant, oh, vas-y, mon petit loup, amuse-toi, puis fais tout. Ben, je t'aime pas vraiment si je fais ça parce que je ne t'encadre pas, je ne suis pas bienveillant envers toi, puis je suis pas en train de préserver ça. C'est pour ça que là, un matin, même ce matin, là, le commentaire des policiers de Repentigny, je suis pas très fier de dire que dorénavant, on va sévir. Hey, j'ai envie de te dire, à l'école, là, tous les jeunes savent c'est qui les pas fins à l'école, je peux te le garantir. Va ah, juste oui. leur parler, va juste leur demander. Ils vont te dire c'est qui vend de la drogue, ils vont te dire c'est qui taxe, ils vont te dire c'est qui pimpe, ils vont te le dire. Mais interviens, tabarnouche.
Bouge. Il y a assurément la question sensible et fragile, toujours, qui réapparaît dans ce genre de contexte-là et qui est importante, je pense, à poser. Roger Ferland, y a-t-il un contexte issu de l'immigration dans diverses écoles ici ou encore dans le contexte de la jeunesse qui peut mener à peut-être un genre de changement de paradigme sociétal aussi?
Sûrement, Pascal, qu'en ce moment, beaucoup de groupes ou beaucoup de personnes en autorité ont refusé d'agir un petit peu sous prétexte qu'ils se sont souvent fait dire parce qu'ils n'ont pas très bien intégré les minorités visibles, les communautés culturelles qui sont arrivées dans leur quartier à être une vraie nouvelle famille. Je pense qu'on s'est fait souvent traiter de raciste, puis c'est la carte qu'on se fait trop souvent servir. Je peux te le dire, là, je parlerai avec n'importe quel policier sur la rue, là, le premier commentaire qui se fait dire « Pourquoi tu m'arrêtes? » Puis là, la deuxième phrase, c'est « Parce que je suis de telle nationalité. » Tu sais, arrête-moi ça, là. Là, c'est, dans un quartier, c'est comme ça. Fait,
non, non, t'es un sacré volé à un aîné à 4, là. Que tu sois de couleur blanche, que tu sois une personne issue de l'immigration, t'as commis un acte criminel.
Complètement, Jeff. C'est pour ça que là, on est rendu trop loin. Là, je pense que je veux même plus savoir ce qu'il y en est, là. On en a plein de communautés culturelles avec nous. C'est une réalité maintenant. L'immigration a pris sa place. C'est correct. Mais là, maintenant, il faudrait peut-être qu'on apprenne maintenant à donner les règles qu'on veut et appliquer ces règles-là de base et les maintenir un petit peu. C'est sûr, sûr qu'on va devoir retourner faire de la prévention en milieu scolaire. Mais après l'avoir dit une fois, deux fois, là, d'après moi, c'est assez. Là. Mm-hmm. Montre-moi après ça que tu peux agir puis que certaines lois ont du mordant. Parce que, tu sais, je l'ai dit ce matin lors d'une autre entrevue, c'était vrai pour les villages africains de dire « ça prend une famille pour mettre un enfant au monde », ben ça prend tout un village pour l'éduquer après ça. Ben là, on est dans ce contexte-là. Là. Arrêtons de laisser nos jeunes penser qu'ils vont s'éduquer tout seuls par le web, puis par Internet, puis les jeux vidéo. Là. Ça va prendre des cadres, des limites. Puis si je t'aime vraiment, mais je te laisse plus faire n'importe quoi, faisons des véritables constats. Tu l'as dit tantôt, Pascal. Là. Regardons vraiment ce qui se passe. Là. Les constats, là, on réalise que c'est ça la réalité. Elle ne changera pas. Là. Puis elle n'ira pas. Puis je ne pense pas qu'elle va s'auto-régulariser toute seule par elle-même. Alors, ça va prendre des cadres qui vont être mis là-dedans. Puis dans ça, les jeunes vont quand même jouer, essayer de tricher la ligne. J'en conviens. Mais là, au moins, on saura c'est qui. Puis trop souvent, on pense que tout le monde est de même. C'est pas vrai, nos jeunes ne sont pas tous comme ça. Tu en as une poignée de jeunes qui sont comme ça, mais on n'ose pas intervenir présentement sous prétexte que il y a eu des problèmes dans sa vie, il vient d'ailleurs, il vient de l'affaire. Ma réponse, c'est on arrête là, puis appliquons des lois là, à un moment donné un peu, puis ramenons un cadre où est-ce qu'il doit être. Je pense que ça va être pas mal plus sécurisant pour tous nos jeunes, également pour la population en général.
Roger Ferland, je te souhaite une très belle journée d'anniversaire, mon ami. Merci de t'être rendu disponible pour nous en cette journée spéciale pour toi. Et au plaisir de se reparler bientôt.
Merci, bonne journée à vous.
Salut Roger, bonne journée. Par texto, Francis qui nous écrit, c'est exactement ce que la travailleuse sociale de ma fille me dit, ça prend de l'encadrement. Bravo à Roger, il est en plein dans le mille. Est-ce que tous les backlash d'intervention envers les personnes immigrantes freinent justement les policiers d'agir? C'est clair, net et précis selon moi. Et quelqu'un qui dit totalement d'accord avec Roger, merci beaucoup. Un collaborateur très précieux, ce Roger Ferland. Pascal, tu nous parlais de la guerre au Moyen-Orient tout à l'heure, de cette attaque sur l'Iran, de toutes les activités qui se sont passées durant la fin de semaine. Eh bien là, le prix de l'essence, je le rappelle, pourrait être à 2 $ à la pompe dès ce week-end. Le marché boursier aux États-Unis pourrait chuter de 35. Alors, on a le meilleur chroniqueur ici à Boulevard pour nous en parler dans un instant. Luc Laliberté va s'entretenir avec nous. Est-ce que Donald Trump va être freiné par ces mauvaises nouvelles économiques? On en parle, hein? On en jase avec Luc Laliberté. Vous êtes sur Boulevard 102.1.
On bosse, on en jase, à Boulevard 102.1.
13h12 minutes exactement. Continuez à réagir au 418-971-1021. On adore vous lire. Je lis la majorité des textos en ondes parce que j'aime que vous nous parliez et que vous nous donniez votre opinion. Également, n'oubliez pas, si vous avez un dossier chaud, c'est citoyen au singulier A commercial blvd.fm. Le chum Mathias Turcotte, qui est en remplacement de Max Larouche ce matin dans Marceau le matin, va regarder votre dossier, va l'amener encore plus loin et ça risque de se retrouver en onde. Donc, n'hésitez pas si vous avez des situations à décrier dans la ville de Québec parce qu'à Boulevard 102, on est branché sur Québec, on est branché sur notre ville et on l'est d'autant plus à l'émission. On en jase. BLVD.fm, c'est notre web radio. C'est la meilleure façon de réécouter également nos meilleurs moments. BLVD 102.1. Sur App Store et Google Play Store, c'est notre application pour nous écouter partout où vous allez. Au parleur intelligent, vous dites « Écoutez BLVD » et c'est ce qui arrive dans votre maison. Vous entendez le bon « Rock and Chill » comme je fais à chaque samedi et dimanche matin. Twitch.tv/BLVD/FM pour venir nous voir. On est en studio et abonnez-vous à notre page YouTube. L'excellent caucus avec Antonine Iaccarini s'y retrouve à chaque jour. Pascal, en manchette, il y a deux points de presse qui ont retenu l'attention aujourd'hui.
Oui, on a fait des annonces au-delà des nouvelles qu'on vient de faire ensemble, entre autres sur la ville de Québec et tout ça. Il y a aussi une annonce commerciale ou économique qui a été faite parce que la ville, soit de Québec, a accordé plus de 3,7 millions de dollars aux incubateurs. On veut soutenir la croissance des jeunes entreprises innovantes. Ça veut dire quoi? Ben, c'est des investissements qui vont aller dans l'écosystème entrepreneurial de Québec. Donc, on veut accompagner les entreprises qui ont un fort potentiel dans des secteurs assez stratégiques. Là, souvent, c'est technologie. Hein? Donc, technologie propre, la quantique, le numérique. Et on veut favoriser la vitalité commerciale dans les artères du territoire. Pour ça, on vient d'annoncer 3,7 millions de dollars. Deux points de presse qui ont attiré notre attention ce matin aussi au niveau du fédéral. Donc, c'est la ministre Jolie, Mme Jolie, et le ministre McGuinty et le secrétaire d'État Fur qui a annoncé 900 millions de dollars pour stimuler l'innovation dans le secteur de la défense. C'est sûr qu'on est là-dedans. L'honorable Mélanie Joly et ses comparses qui ont annoncé que le Conseil national de recherche Canada donneront 900 millions de dollars dans la stratégie industrielle de défense du Canada. C'est un plan à long terme. On veut soutenir la prospérité nationale, bâtir une économie de défense résiliente. Et dans le cadre de cette stratégie-là, le gouvernement du Canada entend accélérer le développement de ces technologies à double usage pour répondre aux besoins du pays. Ça, c'est aussi pour assurément avoir une compétitivité à l'échelle mondiale. On est assurément là-dedans, plus que jamais avec ce qui se passe à l'international. Pierre Poilievre, lui aussi chef du Parti conservateur au fédéral, a donné un point de presse ce matin. On parlait de l'importance des pipelines. On est revenu au niveau du prix de l'essence qui pourrait bondir dans les prochains jours. On se demande si on ne va pas payer 2 $ le litre à la pompe parce qu'il se passe beaucoup de choses ailleurs dans le monde, soit des bombardements intensifs en Iran. Encore en fin de semaine, si je peux te faire un résumé de ce qui s'est passé, il y a eu des frappes massives américaines et israéliennes, donc contre des infrastructures militaires et stratégiques iraniennes, des dépôts de carburant, des installations pétrolières autour de Téhéran. Ça fait mal. Certaines zones urbaines aussi qui ont eu des dégâts importants et des pertes civiles. Il y a eu des ripostes iraniennes, donc missiles, drones tirés vers Israël. Encore des attaques contre des pays du Golfe. On parle du Qatar, Arabie Saoudite, Émirats, Bahreïn, Koweït. Donc, le conflit commence à s'étendre à toute la région du Golfe. Changement majeur à la tête de l'Iran, succession controversée, c'est le fils de l'autre qui a pris le pouvoir. Alors, toujours un nouveau guide suprême en date d'hier, Mojtaba Khamenei. C'est le fils d'Ali Khamenei qui a été envoyé au pouvoir et le conflit commence à coûter très cher à 7 soldats américains qui ont été tués depuis le début de la guerre, plusieurs centaines de morts en Iran selon des estimations initiales et le prix de l'essence qui continue de bondir. On est à plus de 120 $ le baril aujourd'hui.
Et pour en parler avec nous, on a notre excellent chroniqueur en politique américaine, Luc La Liberté. Luc, comment vas-tu?
Je vais très bien, et vous deux?
Ça va super bien. Luc, dis-moi donc, avec 10 Avec le prix du baril qui va se retrouver à 2 $, c'est-à-dire à la pompe, l'essence à la pompe à 2 $ parce que le prix du baril devra augmenter à peu près à 125 US, 35% du marché boursier qui pourrait vivre une chute. Ça va être difficile pour Donald Trump de continuer sa guerre en Iran?
C'est la question. Hein? On va dans les sondages, d'ailleurs, on souffle plus le froid que le chaud à l'endroit de ce conflit-là. Le thème qui est sur toutes les lèvres, c'est le mot de l'année 2026 jusqu'à maintenant en politique américaine, c'est abordabilité. On parle du coût de la vie, on parle de l'inflation. On a tassé Joe Biden parce qu'on trouvait qu'il n'allait pas assez vite, ou on a tassé les démocrates parce que, bien sûr, c'est Mme Harris qui se présentait. Mais on a voté pour Donald Trump, entre autres, pour ça. C'était un de ses c'était un fer de lance, hein, c'était un des thèmes principaux de sa campagne électorale. Et là, ben, les Américains se demandent si la stratégie est bonne. Parce que, comme nous, on le constate à la pompe, les Américains le voient aussi. Le Donald Trump, dans le discours sur l'État de l'Union, ça fait pas si longtemps, dans le discours sur l'État de l'Union, parlait de cette question d'abordabilité. Et là, on semble aller dans la mauvaise direction. Donald Trump, aujourd'hui, qui a échappé une phrase assez lourde de sens, pas certain que ça va convaincre les Américains. Il a dit, vous savez, pour que les Américains soient en sécurité, que le prix de l'essence soit à la hausse, c'est un bien faible prix à payer. Il faut encore dire aux Américains pourquoi on est en Iran. On n'a aucune preuve qu'il y avait une menace réelle, imminente contre les États-Unis. Puis là, on est dans un conflit qui, vous en parliez, Pascal faisait le tour tout à l'heure, mais qui non seulement enflamme tranquillement la région, mais qui, on le voit, a des retombées un peu partout à l'international. Chaque fois que le prix du baril de pétrole monte de 33 $, pour nous, ça équivaut à peu près à 20 sous de plus à la pompe. Donc, c'est comme ça qu'on arrive, arrive aux 2 $ très, très bientôt. Alors que la semaine dernière, je payais quoi sur la route? Une 1,42, 1,48, dépendamment des endroits où je circulais. Et ça, ce n'est qu'une des facettes, le prix de l'essence. Le transport aérien fonctionne avec ça aussi. Transport aérien, ça peut être vos destinations vacances. À la limite, ce serait moins grave. Transport aérien, c'est combien de denrées qu'on achemine également par là. C'est aussi, si on parle de coûts, d'inflation ou d'abordabilité, éventuellement, entre autres, on bloque le détroit d'Ormuz. Il y a un certain nombre d'approvisionnements qui passent par là, outre le pétrole. On trouve que ça nous coûte cher quand on va à l'épicerie. Hein, le prix du panier d'épicerie a grimpé et on met pas tout à fait la même chose dedans qu'auparavant. Ça aussi, ça va monter et éventuellement, moins d'argent dans nos poches si on boucle la boucle. Donc, le président, il est en année électorale, du moins son parti l'est, parce que Donald Trump, lui, ne se représentera plus. Mais les Républicains doivent être inquiets. Donc, les Américains, bien sûr, au premier chef, au premier titre, mais les Républicains doivent se dire, il semble qu'on ne tire pas dans la bonne direction.
Luc, là, on parlait beaucoup de l'économie, mais l'adhésion aussi de son pays, des gens qui votent. Ouais. Quand on entend une nouvelle comme quoi on demande une enquête, en fait, l'ONU veut une enquête rapide et transparente concernant un bombardement d'une école en Iran, et on attribue cette frappe-là probablement à Washington, donc aux États-Unis. Puis là, tu as bien des citoyens américains qui disent non, là, ça dépasse l'entendement. Une frappe qui a tué des écolières, ça ne passe pas.
Ben écoute, c'est même la guerre, point. Et là, on en rajoute. Et ce qu'on raconte là, bien sûr, ce sont des horreurs. Et des horreurs qu'on semble être en voie ou en mesure de prouver. Mais si on a voté Donald Trump, ça, c'était une autre raison pour laquelle on votait Donald Trump. C'était le président de la paix. Hein? C'était le président qui n'allait pas, qui allait éviter les nouvelles guerres. Il avait critiqué tout ce qui bougeait, qui l'avait précédé et qui avait entraîné le pays en guerre. Ça, à la limite, je pouvais comprendre. Parfois, il faut faire la guerre. Ça, c'est la réalité qu'on peut expliquer de bien des manières. Mais Donald Trump avait bel et bien promis qu'il n'y en aurait pas de nouvelles guerres. Puis là, ben écoute, on a frappé au Venezuela, on a frappé en Iran. On se demande maintenant si Cuba n'est pas la prochaine cible. Pour un président qui devait éviter les nouvelles guerres, le message, il semble assez paradoxal. Et je répète, la justification de Donald Trump, c'est parce qu'on veut être plus sécuritaire, plus en sécurité. Mais il n'y avait pas, à la lumière des informations dont on dispose, il n'y avait pas de menace imminente. Donc, pas de frappe du côté de l'Iran, puis on n'était pas prêt non plus, de l'avis des experts internationaux, de produire une arme nucléaire. Donc, non seulement tu es en guerre, non seulement ta guerre, elle entre sur le terrain de l'autre thème dont t'aimerais parler positivement, qui est l'abordabilité. Mais dans les deux cas, donc, tu vas à l'encontre de ce que tu avais promis. L'autre thème sur lequel Donald Trump s'était fait élire, c'est celui de l'immigration. Et j'écrivais d'ailleurs un texte là-dessus ce matin. Sur l'immigration, il y a moins de gens qui rentrent à la frontière, il y a une chute dramatique, mais, et là, ça rejoint le dossier iranien, on a procédé de manière illégale dans bien des domaines. Donc, les Américains disent, on est content qu'il y ait moins de monde, mais on n'est pas content que notre gouvernement soit dans l'illégalité. Et c'est exactement ce qu'on lui reproche aussi pour l'Iran. Donc, je répète, ça fait beaucoup, mais on est en année électorale. Et ces trois thèmes-là, ça devrait être trois thèmes forts pour les Républicains. Aux démocrates de bien jouer leur carte maintenant, mais j'ai toujours hâte parce qu'ils sont très forts pour, en très mauvais français, scorer dans leur but, les démocrates. Mais c'est aux démocrates maintenant de prendre la balle au bon. Une élection de mi-mandat, c'est souvent une élection pour passer un message, l'administration en place. Et là, en plus, dans les sondages, cette administration-là, elle ne va pas bien.
Pour rappel, on parle avec Luc Laliberté, spécialiste et chroniqueur pour nous en politique américaine. Luc, avec ce que tu viens de nous dire, les faiblesses de l'administration Trump, est-ce qu'il y a des chances que cette attaque-là sur l'Iran soit un succès pour Donald Trump?
On est toujours dans ce qu'on est en train de faire. J'aime bien que tu me relances comme ça, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train de commenter une capture d'écran. On est dans la deuxième semaine de ce conflit-là. Et je répète, le gros manque pour nos analyses, c'est que le manque de transparence du côté de l'administration, c'est qu'on ne connaît pas encore les objectifs réels. Pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on souhaite obtenir? Et au bout de plus d'une semaine de conflit, je suis pas certain qu'on est plus avancé pour déterminer les objectifs à la fin. On le dit, par exemple, et ça aussi, Pascal le relayait dans les manchettes, on vient de se donner un nouveau guide suprême pour l'Iran. C'est un appareil très l'appareil iranien, et il est fait pour survivre aux pires attaques. Qu'on ait enlevé Khamenei, le père, on était, entre guillemets, prêt à ça. D'ailleurs, il était âgé, souffrait de problèmes de santé.
Mais là, Luc, avec si le fils qui reprend les règnes de l'Iran, il n'y a pas grand chance que ça se règle de façon diplomatique, là.
Peu de chance de façon diplomatique, mais aussi peu de chance de la façon dont, parce qu'il faut pas oublier Israël, la façon dont Israël et les États-Unis frappent. Et c'est pour ça qu'on a commencé à évoquer, et ça non plus, je pense pas que les Américains vont l'aimer, je parle de la population américaine, on a dit ça va prendre, l'expression consacrée en anglais, c'est des boots on the ground, des bottes sur le terrain, ça veut dire des militaires. On parlait la semaine dernière de s'entendre avec les Kurdes, en tout cas certains groupes parmi les Kurdes, parce que c'est un gros ensemble de nombreuses organisations, les Kurdes, mais on n'est pas équipé non plus chez les Kurdes pour déstabiliser complètement un régime. On peut l'affaiblir, on peut l'occuper, mais c'est pas assez pour un changement de régime. Et c'est là où je reviens avec la question, puis j'ai pas encore de boule de cristal dans ce dossier-là non plus, mais les Américains visent quoi? Juste rendre ce régime-là peu opérationnel, puis on va être content avec ça? Ou si on souhaite vraiment un changement de régime du côté de l'Iran? Mais ce qu'on voit jusqu'à maintenant, c'est terrible. Puis en passant, ceux qui ont le peuple iranien à cœur, oui, c'est une bonne nouvelle qu'ils soient débarrassés de Khamenei, mais pour l'instant, je suis pas certain que l'intervention américaine fournissent les conditions nécessaires à ce qu'eux prennent leur destin en main. Donc, pour ceux qui pensent aux Iraniens sur le terrain, la situation est absolument horrible.
Luc Laliberté, spécialiste en politique américaine, chroniqueur ici à Boulevard 101. Je te remercie infiniment pour ta présence cet après-midi avec nous, puis au plaisir de se reparler. Malheureusement, on devrait se reparler encore en moment de guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran.
Oui, hélas. Une bonne fin de journée aux auditeurs, puis une bonne fin de journée à l'équipe. Bye.
Merci. Salut, Luc. Luc Laliberté, que vous pouvez entendre régulièrement sur nos ondes, que ce soit ici dans l'émission On en jase ou le matin, dans Marceau le matin. Ce qu'on se rend compte, Pascal, c'est que oui, Donald Trump a enlevé Nicolas Maduro du Venezuela. Oui, il a tué M. Khamenei, mais c'est encore les mêmes régimes qui sont à la tête de ces pays-là. Donc, normalement, quand tu fais une intervention de ce type-là, c'est pour amener une démocratie. Et là, cette partie-là, Trump n'est pas capable de l'amener, de le faire.
Bien, c'est sûr que non, parce que souvent, ils sont organisés hein, au niveau de ce qui se passe en Iran. Ça fait des années qu'ils ont instauré la façon de gérer. Ça fait des années qu'ils ont leur groupuscule de gestionnaires. Puis c'est aussi le peuple. C'est le peuple qui doit vouloir prendre un peu d'assaut leur futur.
Oui, puis dans ça, le cas des Iraniens, mais là, quand le centre-ville est bombardé, puis qu'il y a eu des dizaines de milliers de nos concitoyens qui ont été tués, abattus lors de manifestations, ben t'es moins propice à sortir dans les
rues. Ils sont opprimés. C'est la même chose du côté du Venezuela. Alors, c'est pas peu facile. C'est vraiment difficile de renverser un régime qui, depuis des années, est à la tête d'un pays.
Dans un instant, à Boulevard 102, à l'émission On en jase, on va parler avec Catherine Roy, journaliste à TVA Québec. On revient sur cet accident mortel tragique d'un autobus scolaire ce week-end à Sainte-Rose de Watford. Xavier Landry-Rousseau, 13 ans, qui a perdu la vie. On souhaite nos sympathies à la famille. On va revenir sur le fameux port de ceinture de sécurité. Est-ce que ça prend des ceintures de sécurité dans les autobus scolaires? Et également, on va parler avec notre chroniqueur sportif Alex Laramé du week-end du CH, mais surtout de cette énorme signature dans le monde du sport, Kenneth Walker, 3e, le joueur le plus utile du dernier Super Bowl, s'en va où? On vous dit ça dans un instant. À Boulevard 102. Il est précisément 13h32 minutes. Vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. À la météo, on le rappelle, ça va être du verglas mercredi. Il va y avoir des régions plus touchées, notamment Montréal, l'Outaouais, la Montérégie également, avec jusqu'à 30 mm de verglas, mais on ne sera pas épargné à Québec. En attendant, aujourd'hui, c'est 8 degrés avec quelques averses de pluie, et demain, 6 degrés, puis interminante et mêlée de neige.
Interminante ou intermittente?
Intermittente! J'ai dit interminante, c'est oui. Intermittente. Mais merci écoute, de me reprendre, Pascal.
Ben, je me disais peut-être que tu inventes un nouveau terme pour définir quelque chose.
Oui, j'aurais pu dire, il va toujours avoir de la pluie toute la journée, puis elle va être interminable, puis ça n'aura pas d'allure. Ça. Pascal, parlant de verglas, il y a eu justement un accident tragique cette fin de semaine, accident d'autobus scolaire qui a coûté la vie à un jeune citoyen de Scott-en-Beauce, Xavier Landry-Rousseau. L'accident s'est produit à Sainte-Rose de Watford. La route était très, très, très glissante. Rappelle-nous justement là, les faits là, de cette tragédie.
Bien, samedi matin, on se réveillait, tout le monde avait un café à la main, on s'attendait à avoir un super beau week-end ensoleillé, puis ce genre de tragédie-là, quand ça arrive, on se pose beaucoup de questions. En passant, on est avec tous ceux qui sont éplorés de ça, mais effectivement, autobus de type jaune, là, scolaire, qui était sur nos routes et qui avait à l'intérieur un groupe de cadets. Eux s'en allaient à une compétition de tir à air comprimé, du gros fun un samedi, du gros, gros fun en gang. Et malheureusement, sorti de route et ça a mené à plusieurs blessés, 4 blessés graves, 10 blessés aussi mineur et la perte de Xavier Landry-Rousseau. On vient d'avoir les informations sur l'identité dans les dernières heures. Là. Xavier Landry-Rousseau, 13 ans, qui a perdu la vie dans cette sortie de route-là d'autobus scolaire. Il était originaire de la municipalité de Scott-en-Beauce et c'est absolument terrible de voir que finalement les conditions météorologiques ont mené à tout ça. Puis éplore la grande communauté de la Beauce puis aussi celle de Québec, mm-hmm. veut pas, le Québec en entier.
Clairement. Et pour en parler avec nous, on a l'excellente journaliste à TVA Québec, Catherine Roy. Au bout du fil, Catherine, comment vas-tu?
Ça va dans les circonstances, oui. C'est sûr, mais oui, ça va, parce qu'on est, nous, à la municipalité de Sainte-Rose de Watford, non dans celle de Scott, donc c'est mm-hmm. sûr que c'est un peu moins tendu, mais il y a quand même, on sent quand même la tristesse ici, là.
Catherine, t'as parlé avec la dame qui a été la première à se rendre sur les lieux de l'accident, qui a entendu un bruit strident. Raconte-nous ce qu'elle t'a dit, parce que les scouts auraient été extraordinaires dans leur processus, justement, pour prendre soin l'un de l'autre.
La dame aussi, hein, tout un courage, vraiment, là, elle a entendu, vous le disiez, ben, vous l'avez dit, ben, tu viens de le dire, Jeff, mais j'ai tendance à vous voyer, tu viens de le dire, elle a entendu un bruit, puis elle a tout de suite appelé le 911, donc elle est sortie. Elle a vu hein, les cadets qui ont été éjectés par la porte de l'autobus. C'est ce qu'elle raconte avoir vu. Puis ils étaient donc rendus un peu partout sur la route. Puis elle l'a dit au 911. Elle a dit, j'ai pas le choix, je dois aller les aider. S'il y a une autre voiture qui arrive, ça pourrait être plus grave. Et lorsqu'elle est arrivée, il y avait donc des cadets en sang un peu partout. Alors déjà, c'est une image qui est assez effrayante, mais sur le moment, elle avait juste en tête de les aider. Et là, ils commençaient donc à se lever, puis tout de suite, ceux qui pouvaient ont commencé à aider leurs camarades. Et c'est ce qu'elle raconte, hein. C'est vraiment toute une histoire de courage, de détermination. Tous ceux qui pouvaient aider, aidaient. Il y en a un moment donné, ils étaient tous ensemble. Ça aussi, c'est une image qu'elle me dit, presque tous les cadets avaient du sang sur eux, mais aidaient les autres. Il y en a un moment donné qui est arrivé devant elle, plus de manteau. Elle a dit, mais il est où ton manteau? Il fait froid, il pleuvait. Il lui dit, ben, je lui donnais un autre de mes camarades qui était encore couché sur le sol parce qu'il commençait à avoir froid. Alors, c'est vraiment un beau moment d'entraide dans des circonstances qui sont terribles. Et vraiment terribles. Les secours ont été long quand même à arriver parce que c'était très glissant, là. C'est une bonne pente. Je ne sais pas si vous avez vu les images.
Oui.
Mais oui, c'est ça. C'est un bon dénivelé là quand même. On parle de 10 % d'un côté, 9 % de l'autre côté. Il y a une ambulance, de ce qu'elle a vu, qui a aussi pris le fossé. Il a fallu qu'une voiture glisse, une voiture de police glisse jusqu'à eux pour se rendre. Sinon, les autres ont dû attendre qu'il y ait une sablière, là, qu'on vienne mettre du sable.
Mais Catherine, pour pouvoir aider. Dans le secteur, justement, cette route-là est reconnue comme étant dangereuse. Les gens qui nous écoutent n'ont peut-être pas l'image devant eux. On dit que c'est un secteur qui est particulièrement compliqué l'hiver et qui est dangereux. Mais on a juste vu à la finalité de l'accident un autobus dans un genre de petit ravin sur le bord qui n'est pas renversé, mais le résultat, tout ça, extrêmement violent, là, des cadets éjectés, tout ça, on l'a dit, ça vient nous serrer. C'est difficile à imaginer. Comment est-ce qu'on explique cette violence-là dans l'impact et à quel point elle est dangereuse, cette route-là?
Oui, comme je t'explique, il y a quand même un bon dénivelé. Puis là, c'était glacé, glacé, glacé. Et c'est connu, là, tu le dis dans le secteur, c'est connu. Les gens, ils me l'ont tous dit, ils évitent la route lorsque les conditions météo ne sont pas belles. Et de ce que j'ai pu parler avec certains cadets, bien qu'ils n'ont pas parlé à la caméra, ils m'ont parlé quand même. Là, et ça fait des tonneaux, là, donc cet autobus-là. Là, donc oui, elle était rendue sur ses quatre roues, mais si on regarde bien l'autobus, les vitres ont éclaté. Là, donc elle était en très mauvais état. Avec le dénivelé, avec la chaussée glissante, c'est ce qui explique en fait. Donc, que ça c'était très difficile. Puis que de ce qu'on me semble, ce que la dame semblait dire, il y avait même des bosses là, dans la route. Là, donc, c'est pour ça que l'autobus a eu elle a sûrement. Là, la police, la Sûreté du Québec va le dire officiellement, le coroner aussi, qu'est-ce qui est arrivé, mais de ce qu'on comprend, sûrement que la chaussée glissante a fait que l'autobus s'est ramassé finalement où est-ce qu'elle était. Donc, j'en ai parlé au maire, je viens toujours d'en parler au maire, qui dit que lui, bon, parce que son équipe de voirie a bien fait les choses et que c'est un enchaînement donc de mauvaises conditions météorologiques qui a finalement causé à cet accident. J'ai posé la question si la signalisation était suffisante pour ceux justement qui connaissent pas le coin. Selon lui, oui. Là, donc, ce sera vraiment à voir si le coroner émet des recommandations. Il a dit à ce moment-là, le maire donc de Sainte-Rose de Watford, qu'il allait suivre ses recommandations.
Donc, Catherine, c'est une route municipale, alors c'est sous juridiction de la ville.
Oui, c'est sous. Il y a une partie qui est du côté de la municipalité de Sainte-Rose de Watford, l'autre du côté de l'Évêque Chemin, mais c'est sous leur municipalité à eux. D'ailleurs, la SAC me dit qu'il y avait déjà eu dans les 5 dernières années, 2020 à 2024, qu'il y avait les données, là, il y avait eu 9 collisions sur cette route-là.
Hey, quand même, c'est pas rien, c'est vraiment dangereux.
Non, vraiment.
Puis est-ce qu'on sait si un peu plus comment on va prendre en charge ces jeunes-là. Je sais qu'il y avait des gens qui avaient été déployés pour aller les aider. C'est un traumatisme là, qui va être assez extrême pour certains. Est-ce qu'on sait comment est-ce qu'on va être là dans l'accompagnement pour ces jeunes-là?
De ce que je sais pour l'instant, il y a une équipe d'intervention psychosociale qui a été à l'hôpital. Il va en avoir une aussi pour l'école parce que c'est journée pédagogique hein, aujourd'hui. Et il va en avoir une aussi pour l'école. D'ailleurs, la dame aussi qui a vu s'était offrir de l'aide parce que même pour elle, ce sont des images assez traumatisantes. Mais oui, il y a un soutien qui est offert pour eux et tant mieux parce que ça semblait vraiment un événement terrible à regarder, à vivre aussi, là. La mort d'un camarade, en plus, vraiment. On peut pas passer ça, ouais.
Catherine, je termine cet entretien. Merci beaucoup pour ta disponibilité. En parlant de ceinture de sécurité pour les autobus scolaires, ça revient toujours dans l'actualité à chaque fois qu'il y a un accident du type. Je le sais que tu as parlé avec des gens de CAA Québec. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ou ça ne servira à rien?
Bien, ce que CAA Québec disait, c'est que chaque fois qu'il y a une étude, finalement, conclu, c'est que la façon qui est créé l'autobus, donc avec le banc, par exemple, en avant, c'est suffisamment sécuritaire. C'est pas la même... ça ressemble pas à une voiture, là. Donc, le banc, par exemple, juste en avant, va pouvoir prendre un certain choc, donc ça va pouvoir aider. Par contre, bien sûr, chaque fois qu'il y a un événement, c'est ce qu'on m'expliquait, il va y avoir une étude qui va être faite. Et aussi, un autre point, un autre aspect qu'on m'expliquait, bien, pour que la ceinture de sécurité soit efficace, il faut qu'elle soit bien mise. Alors, un chauffeur d'autobus devrait alors regarder chaque enfant, voir si elle est bien mise pour que vraiment ça évite là, de graves accidents.
Catherine Roy, merci infiniment pour ta présence à l'émission Nangeuse à Boulevard 102 aujourd'hui. Au plaisir de se reparler prochainement.
Oui, au plaisir. Salut.
Salut Catherine. C'était Catherine Roy, journaliste pour TVA Québec, qui est justement sur le dossier de cet accident d'autobus, cette tragédie qui s'est passée ce week-end avec un groupe de cadets là, qui s'en allait faire une activité à Sainte-Rose de Watford. On souhaite nos sympathies à la famille de Xavier Landry-Rousseau, 13 ans, originaire de la municipalité de Scott-en-Beauce, qui a perdu la vie.
On pense à tous ceux qui sont éplorés là-dedans. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on veut même pas imaginer. Ça me rappelle d'autres tragédies qu'on a eues au Québec. J'espère qu'on va avoir un peu plus de réponses à nos questions au niveau de l'entretien. On dit que tout avait été fait, mais quand même, si la route est connue comme étant dangereuse puis on a eu autant de collisions, là, ça en ajoute de la tragédie dans tout ça. Puis Jeff, tu sais, samedi matin, là, on se réveille, fait beau, tout le monde. Ouais. Quand on a entendu dire qu'il y avait eu un accident, on l'a su assez vite, hein, malgré tout, parce que les services d'urgence étaient en déploiement et tout ça. Ça nous remet sur le plancher des vaches, je veux dire, sa réalité. Puis il faut tout le temps tirer quelque chose d'événements tragiques. Puis moi, je dirais de réaliser dans le moment présent. On dit-tu assez qu'on les aime à nos proches? Est-ce qu'on profite de ce moment-là qui est aujourd'hui, qui est maintenant? Est-ce qu'on est... Parce que ça, là, moi, j'ai de la misère à m'en remettre depuis en fin de semaine pour les parents qui étaient donc contents d'envoyer leur fils avec ses chums aller à une compétition de tir d'air comprimé. Puis lui, il devait être content d'y aller. Puis tout le monde était joyeux. Puis tragédie. D'une minute à une autre, sa vie à ce petit gars-là est terminée. Puis t'as une famille qui s'en remettra à peu près jamais, là.
Non, en effet, c'est complètement tragique. Serrez vos enfants dans vos bras lorsque vous reviendrez à la maison ce soir. Il n'y a pas de doute. Dans un instant, on fait la chronique sportive avec Alex Laramée ou Kenneth Walker, le joueur le plus utile de la NFL, a-t-il signé un contrat? Et on revient sur le week-end du Canadien. Une victoire à l'arraché, notamment samedi à Los Angeles.
Pour cette nouvelle saison, j'aurai le bonheur de recevoir des entrepreneurs inspirants, des gens passionnés qui ont osé foncer, relever des défis et bâtir des projets à leur image. À travers leurs histoires, leurs échecs et leurs réussites, on plonge au cœur de l'entrepreneuriat humain, vrai et sans filtre. En ondes tous les lundis 19h sur Boulevard 102.1. En rediffusion sur YouTube, blvd.fm et sur toutes les plateformes de streaming. Bonne écoute et surtout, bonne inspiration.
Une présentation d'équipe Marc-Antoine Reed, IG Gestion
privé de patrimoine, planification financière et fiscale pour entrepreneurs. Votre conseiller vous met-il au cœur de votre plan? Rencontrez-en un qu'il fera. Équipe MarcAntoineReed.com.
Faites partie de la famille Kia Beauport. En mars, offrez-vous le Kia Sportage 2026 à partir de 115 $ par semaine en location 60 mois. Passez-nous voir à Beauport. Kia Beauport,
une histoire de famille. Chaque fois que je vois mon fils, il me demande ma carte de crédit. Je pense que c'est pour faire mes commissions, mais je suis pas certaine. C'est le seul moment où je peux le voir. Et c'est mon fils. Jamais il me volerait de l'argent. Il en prend juste pour m'aider. Enfin, je crois.
Si vous avez un doute, il y a quelqu'un pour vous écouter. Contactez la ligne Aide maltraitance adulte aînée au 1-888-489-2287. Un message du gouvernement du Québec.
Depuis 60 ans, Silencieux Gosselin privilégie la réparation avant le remplacement pour une solution économique et fiable. On est les spécialistes des systèmes d'échappement d'automobiles, de camions lourds et des systèmes DPF. Prenez rendez-vous dès maintenant au silencieuxgosselin.ca.
On entame le dernier sprint entre les médecins spécialistes et le gouvernement. On se rappelle qu'ils se disputent une chaude lutte depuis plusieurs mois déjà. On voit enfin le fil d'arrivée. Les médecins spécialistes y sont presque. Encore quelques mètres et... Oh! Coup de théâtre! La ligne d'arrivée s'éloigne alors qu'on est tout près. Déception. Alors que rien ne bouge sur la piste, les grands perdants sont une fois de plus les patients qui paient le prix de cette interminable course.
Les négociations ne devraient pas devenir une épreuve d'endurance. Un message de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.
Depuis plus d'un siècle, Junot et Frères est la référence en peinture et décoration. Ils ont un large inventaire de produits, dont ceux de marque Sico. Rendez-vous en succursale pour des vrais conseils de pros. Junot et Frères à Québec sur Pierre-Bertrand ou nouvellement à Lévis sur Guillaume Couture.
La nostalgie frappe la Belle et la Bœuf. Tu t'ennuies du burger nucléaire, du Goldorak ou de la poutine syndicale? C'est ta chance. Nos plats et cocktails classiques des années 2010 font un retour pour tout le mois de mars. On vous attend au La Belle et la Bœuf, place Sainte-Foy.
T'es dans la construction? Prends action dès maintenant pour obtenir ta licence RBQ. Le groupe GSC forme et accompagne les entrepreneurs partout au Québec. Formation intensive, flexible et adaptée à ton horaire. En classe, en ligne ou hybride, visite groupegsc.com.
Vous déménagez bientôt? Simplifiez-vous la vie avec Soumission Déménageur. Un seul formulaire vous permet de comparer gratuitement jusqu'à 5 prix de compagnies de déménagement fiables et certifiées. Rapide, simple et partout au Québec. Soumission Déménageur, plus de 150 entreprises à votre service.
Le printemps est à nos portes. Et même s'il reste sûrement une petite tempête de neige, là, il est bel et bien en route. Quoi de mieux pour commencer cette saison que d'essayer la toute nouvelle Nissan Leaf 100% électrique? En plus, son prix ensoleille n'importe quelle journée. Louez la Leaf S Plus à partir de 0% jusqu'à 60 mois. Et profitez d'incitatifs totaux pouvant atteindre 8 000 $, incluant les rabais électriques pour les clients admissibles. Alors profitez du temps doux et faites l'essai de la Nissan Leaf chez votre concessionnaire. Jusqu'au 31 mars, sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent, détails chez Nissan.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Jusqu'à 14h. On en jase. À Boulevard 102. Jeff Fortin, Pascal CV et leurs collaborateurs te racontent l'actualité.
Boulevard 102.1.
Boulevard 102.1, l'émission en jase, ton émission d'actualité. On va faire du sport dans quelques instants également. On a toujours l'ami Alex Laramé du 99.5 Montréal qui vient faire sa chronique sportive les lundis et vendredis. À la météo, seulement vous rappeler qu'il va y avoir du verglas mercredi. Pour le moment, c'est 8 degrés avec quelques averses aujourd'hui. 6 degrés, pluie intermittente, mêlée de neige pour demain. Et moins 3, neige ou pluie verglaçante pour Québec, mais ça devrait être moins pire qu'à Montréal. Outaouais ou Montérégie, on attend jusqu'à 30 mm de pluie. Avant de parler de sport, Pascal, Festival d'été de Québec, ça va être une grosse semaine. Hein?
Moi, je trouve important de vous rappeler que cette semaine, c'en est une. Effectivement, en vue là, du Festival d'été de Québec, à ne pas manquer parce que c'est la prévente exclusive membre Desjardins demain, 10 mars à midi. Ensuite, 11 mars, donc mardi, c'est l'admission générale qui va être en vente. Et les passes zone avant scène A, ce sera le 11 mars. Alors, c'est une grosse semaine. Tu sais, 11 mars, là, t'es dans les or, argent, belle, le jardin. Sinon, mardi, admission générale et demain, pré-vente. je pense que c'est important de le rappeler quand on vit à Québec que c'est une semaine pour le FEC et donc les laissez-passer qui seront en vente.
Je vous rappelle que l'essence devrait frapper le 2$ le litre à la pompe ce week-end. Donc, si vous avez à mettre de l'essence, mettez-le en début de semaine parce qu'évidemment, le prix à la pompe va augmenter grandement. C'est dû au conflit au Moyen-Orient. On va à l'instant même rejoindre Alex Laramin, journaliste au 99.5 Montréal et chroniqueur sportif pour l'émission On en jase. Alex, comment vas-tu?
Ça va bien, une heure de sommeil de moins, mais je suis tout à l'heure quand même.
Exactement. Donc, on est fait fort, Alex. On est capable de passer à travers ça. On écoute ce qui s'est passé samedi soir après une performance décevante du Canadien dans les deux premières périodes.
On remet Stavkovski de l'autre côté. Le tir et le but! Le capitaine Nick Suzuki avec 4 minutes 33 à faire à cette troisième.
J'avais jamais vu Nick Suzuki jouer un aussi mauvais match que samedi, mais il joue les héros en fin de troisième.
Ben, écoute, moi, je trouve qu'en fin de semaine, on a eu vraiment l'ADN du Canadien. Vendredi, on s'est fait remonter en fin de période par les Ducks, puis on a fait le coup inverse contre les Kings. On a remonté, puis on est allé chercher la victoire. On dirait que le Canadien, quand il y a une avance en troisième période, on sait qu'on va la perdre. Mais quand on doit marquer un but, on sait qu'on va réussir à marquer. C'est vraiment aux antipodes. On sent qu'on carbure vraiment la pression du côté du Canadien. Mais quand on a l'avance, visiblement, on est moins habitué. Mais oui, tu l'as dit avec les Kings, ça a été deux premières périodes plutôt difficiles là, pour le CH. Il n'y a pas grand-chose qui marquait. Mais quand même, Slavkovski s'est levé dans ce match-là. On a vu qu'on a réuni justement nos trois gros noms sur le premier trio. Puis visiblement, ça a porté fruit. Deux buts pour Slavkovski qui a vraiment pris cette équipe-là sous ses épaules. Puis Nick Suzuki qui clôt le débat. C'est notre capitaine, il est clutch, Nick Suzuki, puis on s'attend à des performances comme ça pour les séries.
Semaine où les Leafs de Toronto, les pauvres Leafs, seront en visite au Centre Bell mardi. Et par la suite, match important contre les Sénateurs d'Ottawa qui gagnent du terrain au classement. Selon moi, il faut que le Canadien sorte de là avec deux victoires.
Ben, tu sais, notre division, elle est mortelle, là, on va se l'avouer, là, je veux dire. Je pense à la date limite, il parlait que tous les clubs de la division Pacifique du côté de l'Ouest, il n'y en a aucun qui sera en série, juste dans notre division Atlantique, là, sans parler de la métropolitaine.
En effet.
Je veux dire, c'est tellement serré dans notre division. Puis oui, tu l'as dit, les Leafs, je veux dire, ils ont échangé tout ce qu'ils pouvaient à date limite, là. On s'entend, on fera pas les séries, là. On s'en va peut-être dans un fameux retool, là, comme Bergevin aimait l'appeler, du côté de Toronto. Donc, selon moi, ce match-là, on peut vraiment pas l'échapper. Contre les Sénateurs, ça va être plus difficile. Malgré que là, Jake Sanderson s'est blessé, là, reste à voir son état de santé pour le match contre les Canadiens. Ça devrait rendre les choses un peu plus faciles, étant donné que c'est leur défenseur numéro un. Mais oui, c'est des matchs qu'on ne peut pas échapper. Là. On s'entend que la Californie, c'est jamais un voyage qui est très bon pour les Canadiens. Là. Historiquement, on a toujours un peu de difficultés. On peut comprendre, les gars s'en vont en Californie en plein hiver. Là. Je ne les blâme pas peut-être de penser à autre chose que le hockey. Mais là, on est de retour à la maison. Il faut aller chercher des points pour les séries.
Hey, on les paye des millions de dollars, Alex Laramin. Arrête-moi ça. Faut qu'ils soient capables de vivre avec le soleil. Blague à part, les Sabres de Buffalo. 7 victoires consécutives, remontée hier à Tampa Bay dans un match complètement fou, il l'emporte 8-7. Qui va arrêter les Sabres, Alex? Est-ce qu'on s'en va vers une finale de la Coupe Stanley?
Ben là, wow, Jeff, wow.
Laisse-moi m'emballer, Alex Laramin.
Alors, il y a trois mois, on parlait d'eux pour la loterie. Là. Je veux dire, ils sont sur une super bonne séquence. J'ai toujours été un détracteur là, des Sabres de Buffalo. Là. Mais là, il faut l'avouer, ça fait quand même deux matchs qu'affrontent Tampa Bay qu'ils gagnent, dont le match complètement fou, là, victoire de 8-7. Fait que je vais quand même leur donner un peu de respect. Là, si, je pense qu'on est rentré dans une nouvelle ère là, à Buffalo. On n'est plus dans l'équipe de perdants qu'on a eu dans les 10 dernières années. On sent que à partir du moment qu'on a congédié Kevin Adams, on a réussi à changer l'ADN du club. On a fait quelques bonnes acquisitions aussi du côté de la date limite. Donc, pour la Coupe Stanley, je sais pas, mais d'après moi, ça va être des bons joueurs en séries éliminatoires. Là, on va être capable de pousser des bonnes séries puis pas se faire sortir en 4 ou en 5, comme on a vu avec le Canadien l'an dernier. Donc, je pense que c'est une équipe sérieuse, mais de là à dire pour la Coupe Stanley, je mettrais quand même un petit bémol là-dessus.
On termine en disant que c'est le premier jour des joueurs autonomes dans la NFL et l'équipe qui a frappé le plus gros coup, c'est l'équipe de Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City. Signature de 3 ans et 45 millions de dollars pour le porteur de ballon, Kenneth Walker.
Ah ouais, Kenneth Walker a réussi à obtenir son contrat avec son titre de MVP du Super Bowl parce qu'avec Seattle, il était bon, mais c'était, tu sais, on partageait le temps avec Charbonnet aussi. Mm-hmm. C'était pas le numéro un incontesté. Là, avec les Chiefs, avec le contrat qui est en poche, définitivement, ça va être l'homme numéro un pour Andy Reid et Patrick Mahomes. Puis on sait, Mahomes est blessé, là, il va probablement revenir pour le début de la saison. Mais clairement, avec cette signature-là, on veut donner de l'aide à Mahomes. On veut pas qu'il ait besoin de lancer le ballon 50 fois par partie. On veut avoir un bon jeu au sol. Fait que moi, je suis pas un fan des Chiefs, là. Personnellement, je suis un fan des Ravens, donc j'étais pas très content de voir ça. Mais force est d'admettre que pour les Chiefs, c'est une excellente signature. Puis Travis Kelce qui revient en plus. On devrait avoir une bonne attaque du côté de Kansas City encore l'année prochaine.
Vraiment, Alex Laramie, on se reparle vendredi. On parlera justement de cette semaine folle des agents libres dans la NFL et de la semaine du Canadien.
Avec plaisir, les gars.
Salut, Alex. Bonne fin de journée. C'est Alex Laramie, excellent. Journaliste au 99.5 Montréal. Pascal, est-ce que tu tripes sur Passe-Temps 3000?
J'adore surtout son propriétaire. C'est lui qui me fait tripper sur
Marc
sa boutique.
Marc Nadeau, le oui. Père Noël de Québec. Bien, c'est lui qui sera dans le podcast Histoire d'entrepreneur avec Joannie Fortin ce soir à compter de 19h sur Boulevard 102.1 et ce sera rediffusé dès demain sur toutes nos plateformes. Le podcast Histoire d'entrepreneur est commandité par Équipe Marc-Antoine Reed, IG, gestion privée de patrimoine, planification financière et fiscale pour entrepreneurs. Votre conseiller vous met-il au cœur de votre plan? Si c'est pas le cas, marc-antoine-reed.com. Le retour de Gravel, tu es à l'instant même. C'est le retour de Denis de ses vacances. Il va avoir plein d'histoires intéressantes
en
à nous raconter.
Angine de poitrine hier, à tout le monde en parle.
Angine
ça devrait
de
faire
poitrine,
jaser
à tout le monde en parle hier. Ben oui, hein, regardons ça. Angine de poitrine, c'est ça. C'est l'autre. Là-dessus, on se dit à demain, Pascal Sévin.
Comme dirait Alex Laramie, salut les gars.
Et voilà, salut les gars, demain.